Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une ce dimanche, un triste spectacle après le match de Coupe du Monde Belgique-Maroc. La victoire marocaine vira à l'émeute. Non pas au Qatar, mais dans les rues bruxelloises. Voitures brûlées, policiers visés, quelques tensions également sur les Champs-Élysées à Paris. Alors qu'au Maroc, tout s'est passé dans le calme. Alors qui sont les voyous? Pourquoi tant de haine? On sera en direct avec notre spécialiste belge dans cette édition, Claude Moniquet. Regardez ce qui s'est passé à Anvers. À la une également quand plusieurs grandes enseignes proposent un jeu de société, mettons des guillemets à jeu, faisant l'apologie des antifa pour lutter contre l'extrême droite. La FNAC a supprimé, comme par miracle, ce dimanche la page, mais manque de bol, on a pu tout capturer à temps. Plusieurs syndicats de police montent au créneau.
C'est inviter, c'est inciter des gens, des jeunes de tout âge, à devenir des ultra-gauchistes patentés.
Enfin, les années passent et tristement se ressemblent. Le Covid vient jouer les troubles faits. Une neuvième vague pointe le bout de son nez. Et ça y est, on appelle déjà à reporter le masque dans les transports en commun. La question de la réintégration des soignants non vaccinés reste sans réponse. Et pour le président de la Fédération hospitalière de France, il n'y a pas de débat, on ne les réintègre pas.
Pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. C'est une question d'éthique vis-à-vis des 99% des agents hospitaliers qui, eux, sont vaccinés. Et donc, on est plus sur un sujet politique que sur un sujet sanitaire dans ce cas-là, dans les débats que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale.
Voilà le programme. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Mathieu Devez.
Un adolescent de 14 ans tué lors d'une rixe à Coignières dans les Yvelines. Le drame est survenu la nuit dernière après un combat de MMA organisé dans un gymnase. À l'issue de la soirée, deux bandes se sont affrontées en dehors de l'établissement. Et cet après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Il a été placé en garde à vue. La révolte contre la politique zéro Covid se propage en Chine. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues à Pékin, Shanghai, Wuhan et dans d'autres villes du pays. Elles protestent contre les confinements à outrance, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique zéro Covid pratiquée depuis près de 3 ans. La Coupe du Monde de football au Qatar et ça vient de se terminer, le choc de la soirée. Match nul un partout entre l'Allemagne et l'Espagne. Les Espagnols ouvrent le score à l'heure de jeu, un subtil extérieur du pied d'Alvaro Morata, l'attaquant du Real Madrid. Les Allemands égalisent grâce à Füllkrug, une frappe puissante en pleine lucarne. L'Espagne est première de sa poule, l'Allemagne dernière, mais rien n'est joué dans ce groupe E.
Voilà pour le point sur l'information. Judith Vintraube, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, Le Figaro Magazine. Vous êtes à côté de François Calfon. Bonsoir, bonsoir, cher François, conseiller régional Parti Socialiste Île-de-France. Daniel Simeka, docteur, merci d'être avec nous. Important de vous avoir ce soir parce que vous, votre ligne, elle est simple. C'est vous n'êtes plutôt pas d'accord pour la réintégration des soignants non vaccinés. Et ça tombe bien. Dans cette émission, vous serez face à un soignant qui est suspendu depuis un an. Donc on va parler de cette réintégration ou non des soignants non vaccinés. Marc Varneau, bonsoir cher Marc. Vous avez tout bonsoir préparé, vous avez les chiffres, les statistiques, tout comme notre ami Jean Messia, président de l'Institut Apollon, qui demande de récupérer son compte Twitter, mais pour l'instant, peanuts.
Ça commence demain.
Bon, on verra si demain vous le récupérez.
Il a écrit une lettre à Elon Musk.
Oui, c'est possible. Et en anglais d'ailleurs. Et en bon anglais.
Soutenu par Calfon qui est pour la démocratie la plus réelle.
Évidemment, bien sûr. Ce qui
c'est
me
la
plaît,
lettre au Père
ce
Noël.
Ce qui me plaît, chers amis, c'est que ce soir, vous allez voir les deux, trois premiers thèmes qu'on va faire. Personne ne va les traiter. Personne. Parce que ça ne rentre pas dans les codes, vous savez, la bien-pensance. Il y a un logiciel qui bug sur certaines thématiques. Nous, on va les traiter. On va en débattre ce soir dans Soir Info Week-end. Et je suis très heureux d'être avec vous. À tout de suite. Top départ de Soir Info Week-end, Judith Vintraub, Marc Varnaud, Jean Messia, Daniel Siméca et François Calfon. Je vous le disais, on va traiter les deux, trois premiers sujets. Je mets ma main à couper qu'ils ne seront traités nulle part. Et on va commencer avec ces émeutes à Bruxelles, le match de Coupe du Monde au Qatar, Belgique-Maroc. Victoire 2-0 du Maroc a entraîné des scènes d'émeutes 6000 km plus loin. En Belgique et notamment à Bruxelles. Voilà ce qu'il s'est passé à Bruxelles. La police a déployé des canons à eau dans le centre-ville où des violences ont éclaté. Véhicules brûlés, mobilier urbain enflammé, projectiles lancés sur la police. Et puis, vous allez découvrir cette image qui est tellement symbolique à Anvers cette fois-ci, extrêmement choquante. Dans le district de Bergerotte, un supporter monte à la fenêtre d'un immeuble et d'un Belge pour lui arracher son drapeau sous les hurrahs, des personnes qui sont tout autour. Regardez la séquence. Claude Moniquet, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste des questions de sécurité en Belgique. Comment vous décodez ce qui s'est passé cet après-midi dans les rues de Bruxelles et un peu partout en Belgique ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est la rencontre de violences qui manifestement sont des violences communautaristes, comme on le voit à Anvers, mais aussi du triste spectacle qu'offre une fraction des supporters de football. Et ça, on peut le trouver dans toute la communauté, dans tous les pays. Les matchs de foot, on le sait, attirent malheureusement un public qui n'est pas toujours le plus choisi et crée de la violence. Mais ce qu'on a eu aujourd'hui en Belgique, c'est à la fois dans 3 communes de Bruxelles, 4 communes de Bruxelles, y compris dans l'hypercentre, des événements extrêmement violents. Ce sont les événements que vous avez montrés à Anvers et à Liège, dans le sud-est de la Belgique, un commissariat de police qui a été attaqué par une cinquantaine de voyous. Le bourgmestre, donc le maire de Bruxelles, a qualifié ces jeunes comme étant des voyous et des crapules. Je crois qu'effectivement, c'est comme ça qu'on peut les qualifier.
Claude Moniquet, j'ai une dernière question parce que vous parlez de voyous et de crapules et c'est un fait, évidemment. Mais on a besoin de savoir qui sont ces personnes. Et quand on regarde les images, elles ont malheureusement, j'ai envie de dire, des drapeaux marocains sur les épaules. Donc, est-ce que ce sont des groupes violents qu'on peut voir sur des manifestations style Antifa? Ou alors, c'était des supporters marocains, pour la plupart d'ailleurs nés en Belgique, qui ont saccagé les rues de Bruxelles. C'est ça la question?
Oui, je crois, même pas la plupart, tous probablement, étant donné leur âge, sont nés en Belgique et sont donc aussi des citoyens belges. Je pense qu'on n'est pas en face d'une manifestation, d'une émeute politisée, on n'est pas sur de l'antifa, on n'est pas sur du black bloc, on est plus effectivement sur du communautarisme, sur de la violence communautariste et sur cette volonté qu'on a parfois dans certains de ces milieux de casser du flic et de casser tout ce qu'on peut casser. C'est une violence gratuite, c'est une violence épidermique et qui heureusement est limitée. Il y a 150 personnes, 200 peut-être, mais qui est quand même très spectaculaire.
Et on voit d'ailleurs, c'est ça qui est triste, c'est-à-dire que ce sont des personnes, et c'est ce que vous nous expliquiez Claude Moniquet, des personnes qui sont en fait belges, qui sont peut-être d'origine marocaine. Mais je vais vous montrer une image, tiens, à Marrakech, au Maroc qu'on m'a envoyé, pour voir la différence. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de liesse, tout se passe dans le calme, les Marocains sont en fait très heureux. Et ce qu'on me dit en coulisses, c'est que les fauteurs de troubles à Bruxelles ou même dans les rues de la capitale à Paris, c'est que finalement... quand ces personnes-là vont à Marrakech, elles sont étrangères à Marrakech. Elles ne peuvent pas, absolument pas faire la même chose. Donc c'est en fait en quelque sorte des apatrides. Regardez, c'est le calme, la joie donc au Maroc et à Marrakech et tout le monde est heureux. Et c'est le décalage qu'il peut y avoir qui est fascinant entre ce qu'il se passe au Maroc et ce qu'il se passe, que ce soit à Bruxelles ou encore sur les Champs-Élysées. C'était un ton en dessous, hein, aujourd'hui beaucoup plus calme. Judith Vintraub.
Vous pourriez faire la même remarque quand des troubles sont provoqués en France par des jeunes français d'origine algérienne qui ne bougent pas une oreille quand ils vont en Algérie. Oui. Alors c'est vrai que les systèmes de maintien de l'ordre ne sont pas comparables, mais ça fait des dizaines d'années que la Belgique, une grande partie de la Belgique, notamment Bruxelles, est totalement communautarisée.
Communautariser, c'est le terme qu'a utilisé d'ailleurs Claude Moniquet.
Il y a une seule différence, c'est que ces jeunes, quand ils vont au Maroc ou quand ils vont en Algérie, se sentent chez eux. Je veux dire qu'ils respectent le pays de leurs origines. Alors qu'en France, ils se comportent comme de véritables colons qui expriment une violence terrible à chaque fois qu'ils le peuvent. Il faut être honnête. Effectivement, votre spécialiste belge le rappelait, à chaque match, après chaque match, il y a des débordements, des bagarres, etc. Mais là, on n'est pas là, en fait. C'est-à-dire que là, on a une expression de violence alter-identitaire qui est d'autant plus choquante qu'il s'agit de personnes qui portent la nationalité française. On eût aimé ce soir commenter en disant...
C'est à Bruxelles.
C'est la même problématique, c'est juste une problématique un peu plus exacerbée qu'en France. Et encore, j'aurais aimé dire ce soir, mais quel spectacle magnifique de ces jeunes qui remercient le pays d'accueil, qui font allégeance à la Belgique. Or, ces jeunes décrochent le drapeau belge, et Dieu seul sait ce qui s'est passé après avec ce drapeau. C'est un symbole extrêmement grave.
Bon, la France est la France, la Belgique est la Belgique. D'abord, il faut condamner ces événements, bien évidemment. Et je suis un peu votre expert belge qui était là. Il y a une dimension communautaire sur laquelle je reviens. Et puis, je reviendrai bien sûr, parce que c'est le cœur de la discussion. Et puis, il y a une dimension, le foot, le grand défouloir. Parce que tout est prétexte dans le football à ce type de débordement. Ce n'est pas le premier, malheureusement, ce n'est pas le dernier. On se souvient du stade du Heysel il y a très longtemps de ça. Ensuite, quand même, comment ne pas pointer une chose que nous connaissons, hein, qui est un phénomène tristement célèbre. Là, la connexion, elle est établie. Les terroristes du Bataclan venaient d'une cellule de Molenbeek. Certains s'y sont réfugiés, d'ailleurs, à un certain moment. Et à l'époque, ça a interrogé. Et moi, je pense qu'on ne peut pas comparer la France et la Belgique, et en particulier Bruxelles, parce qu'il y a quand même une forme d'état introuvable en Belgique.
Mais attendez, excusez-moi, la prochaine... Attendez, juste, je vous coupe un instant. La future marraine de la francophonie, Iseult, l'artiste, a décidé de quitter la France pour dire « Mais à Bruxelles, en fait, on accepte beaucoup plus.
Bon, »
Regardez l'exemple. Voilà l'exemple. Voilà ce qui se passe dans les rues.
Je termine juste ma phrase. Comme ça alimente le débat. On s'est dit à l'époque, et on n'a pas de leçons à donner non plus, il y a des débordements en France, mais on s'est dit à l'époque que ça allait interroger le modèle, entre guillemets, d'intégration ou multiculturel belge. On voit que le problème de Molenbeek, qui a été quand même très pointé du doigt mondialement, et dès Molenbeek, puisqu'il nous a parlé de plusieurs communes dans Bruxelles, n'a pas été prise en charge. Alors, la question que je me pose malheureusement, c'est est-ce que l'état des institutions... Belge le permet.
Voilà. Allez-y, Marc.
Vraie question.
Marc, pardon.
Plusieurs choses. Je pense que ce ne sont pas des accidents ou des coïncidences si effectivement on peut mettre en parallèle. La problématique est que certains jeunes Algériens d'origine algérienne en France et Marocains en Belgique. Il y a un point commun. En Belgique, comme en France, on a créé des conventions qui ont permis d'avoir une immigration massive de Marocains en Belgique et d'Algériens en France. De surcroît, en Belgique, il y a quelque chose de particulier, c'est que comme vous le savez, le Maroc interdit la perte de la nationalité. Donc en réalité, tous ces jeunes d'origine marocaine, deuxième, troisième génération en Belgique, sont marocains. Et donc il y a des sondages qui ont été faits en Belgique qui sont...
Binationaux, oui.
Mais ils se sentent marocains. 81% des jeunes marocains...
Comme certains Français d'origine algérienne en France.
Mais je ne dis pas le contraire. 81% des jeunes belges d'origine marocaine ne se sentent pas uniquement belges. Donc il y a un problème identitaire qui est fort. Puis la dernière chose, pardonnez-moi, c'est que ce soit en France comme en Belgique, on a aujourd'hui des manifestations insurrectionnelles au sens sémantique du terme que l'on traite comme des vulgaires manifestations.
L'on ne traite pas ces images. J'ai commencé l'émission en disant, les amis,
Elliot, je vous remercie,
ces images, vous ne les verrez nulle part ailleurs.
On ne traite pas ça comme de l'insurrection. Je suis désolé, quand on s'en prend au drapeau et qu'on met à feu et à sang une rue, je veux dire, la réponse policière à minima n'est pas du tout adaptée.
Claude Moniquet, avant d'avoir la réaction de Judith Vintraube, j'ai fait un tour de table. Est-ce que vous partagez les avis que vous avez pu entendre sur cette thématique-là et ces images?
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de très significatif en Belgique depuis toujours. La Belgique est un pays très compliqué, régionalisé, avec des communautés flamandes régionales. Au total, il y a 7 gouvernements en Belgique, mais il n'y a pas d'État. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité, quoi que dise le Premier ministre. Réellement, on le voit, c'est à la fois un problème de coordination entre régions, c'est un problème profondément de culture belge. Il n'y a pas de réponse appropriée à l'État quand se passe un problème comme cet émeute ce soir ou d'autres.
Claude Moniquet, juste une dernière chose, parce que moi, la Belgique, j'y suis allé à Bruxelles. Et je suis notamment allé à Molenbeek. C'est saisissant de voir le décalage culturel qu'il peut y avoir entre, allez, on va dire, le centre-ville, le cœur, le poumon de Bruxelles, et 10 minutes, 15 minutes à peine en voiture, vous arrivez dans le quartier de Molenbeek, qui est quand même à Bruxelles, et c'est un autre monde, c'est une autre vie, c'est une autre société, on est bien d'accord?
On est bien d'accord, et là, il y a une différence fondamentale aussi avec la France, c'est qu'en France, les quartiers, les zones sensibles, les quartiers à problème sont dans les banlieues des villes. Mmh. En Belgique, ils sont souvent dans le centre ou dans le centre des villes ou à proximité des centres. Cela étant, très clairement, on parle de minorités extrêmement agressives, violentes et très désagréables, mais on parle réellement de minorités parce que la majorité des gens à Bruxelles, quelle que soit leur origine, ils veulent vivre en paix. Et il est très clair que ce qui s'est passé ce soir n'est pas de nature à favoriser cette paix et va venir d'abord à la communauté marocaine.
Judith Vintraube, vous avez fait une remarque qui était intéressante. Vous avez dit que c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces quartiers très communautaires, ou en tous les cas ces tensions...
Vous en avez aussi dans les centres-villes. Bien évidemment. Et en France, vous en avez. En fait, la Belgique est plus avancée, entre guillemets, que nous dans la communauté.
Et alors que vous découvrez à l'image, les dernières images, justement...
Dans la communautarisation.
Allez-y.
Il y a deux éléments à propos des institutions belges. Ils ont la proportionnelle à toutes les élections. Et qui dit proportionnelle dit compromis et marchandage avec les groupes de pression, c'est-à-dire en l'occurrence les communautés. Deuxième chose, mais qu'on a aussi en France, la justice belge donne fréquemment raison aux revendications communautaristes. Il y a un exemple tout récent, c'est la STIB, c'est le syndicat des transports urbains de Bruxelles, qui est le premier employeur public de Bruxelles. Mmh. Une femme a porté plainte parce que la STIB voulait lui interdire de porter le voile en exerçant sa profession. La justice a donné raison à la femme et la STIB n'a pas fait appel.
Claude Moniquet, peut-être qu'on va vous retrouver dans les prochains jours, parce que moi j'ai envie de savoir comment s'est traitée cette actualité-là par les médias belges. Et est-ce qu'il y a un silence assourdissant du côté de la Belgique, ou alors les images qu'on a pu voir, les tensions, les émeutes dans les rues de Bruxelles, ça va faire la une des journaux demain matin? Ça sera vraiment intéressant de vous retrouver dans les prochains jours. Merci beaucoup Claude Moniquet. La publicité, on revient dans un instant. On va parler, juste après la pub, c'est pour ça, restez avec nous, on va parler de ce jeu Antifa. C'est quand même fascinant, le monde dans lequel on vit. Un jeu qui fait en fait l'apologie de pseudo-antifascisme, qui est en fait le nouveau fascisme, qui fait l'apologie de cette violence dans la rue, contre ce... Voilà comment c'est résumé, hein. Propos racistes, manif homophobes, violence fasciste, ça suffit contre l'extrême droite. À vous de jouer. Avec quelques amis, vous décidez de monter un groupe antifasciste et de mettre en place des actions qui vont demander du temps et des moyens. C'était sur c'était en ligne sur la Fnac, hein. À la Fnac, on pouvait l'acheter. Mmh. Rupture de stock. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai essayé de récupérer le lien. Bah oui, j'ai essayé de récupérer le lien. À 16h30, ça y est, c'était fini. Mmh. Apparemment, la Fnac a retiré la vente.
Encore heureux.
On en parle juste après la pub. Vous restez avec nous. 22h30 sur CNews, on est ensemble pendant plus d'une heure avec Judith Vintraube, avec Marc Varnaud, avec Jean Messia, François Calfon et avec Daniel Siméca. Docteur, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette crise sanitaire. Ça y est, on est en train de nous rejouer le coup de la 9e vague, du Covid qui jouera les troubles fêtes. On connaît hein, les mots valises, mais moi je veux savoir si factuellement il faut s'inquiéter. Et puis on parlera évidemment de la réintégration ou non des soignants non vaccinés. Ça, beaucoup de médias vont en parler hein, ce soir et même la semaine prochaine. En revanche, le jeu Antifa, alors là, je vous mets un billet, ça, vous ne le verrez nulle part. Alors, c'est exceptionnel. Moi, je l'ai découvert cet après-midi. Depuis le 10 novembre, et notamment sur le site de la FNAC, vous pouviez acheter Antifa. C'est un jeu de société qui vous apprend, en quelque sorte, vous amuser à devenir un bon antifasciste. Et sur ces manifestations, il y a plein de jeux. Vous allez voir le sujet dans un instant. Mais avant cela, j'ai failli l'oublier. J'étais tellement content de faire ce sujet. Le point sur l'information avec Mathieu Devez.
Bruno Le Maire reconnaît des abus dans le recours important des ministères aux cabinets de conseil comme McKinsey. Le ministre de l'économie et des finances déclare cependant que cette habitude est aujourd'hui corrigée. Deux enquêtes ont été ouvertes par la justice sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Les Français qui se chauffent au bois pourront bénéficier d'une aide d'État allant de 50 à 200 euros. Une annonce du ministre des Comptes publics Gabriel Attal dans une interview au Parisien. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2 260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants. Le bilan du séisme en Indonésie ne cesse de s'alourdir. 321 morts après un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu lundi sur l'île de Java. Les secouristes découvrent de nouveaux corps sous les décombres des immeubles écroulés ou engloutis par les glissements de terrain.
Et des monstres.
Voilà pour le point sur l'information. Comment est présenté Antifa ? Était présenté, puisque ça a été retiré des ventes par la FNAC. Voilà le résumé. Propos racistes, manifs homophobes, violences fascistes, ça suffit contre l'extrême droite. À vous de jouer avec quelques amis. Alors évidemment, c'était en écriture inclusive. Vous décidez de monter un groupe antifasciste et de mettre en place des actions qui vous demander du temps, des moyens. Vous aviez des personnages aussi. Il est incarné quelqu'un. Par exemple, Thomas, le bricoleur. Thomas le bricoleur, il a un couteau entre les dents. C'est pour vous dire un peu intellectuellement où on en est. Michael Dos Santos résume tout ça et on en parle juste après.
Dès le début de la partie, des événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti-réfugiés ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicaces. Manifestations, blocages, actions offensives, les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
C'est plutôt l'école du crime, c'est inviter, c'est inciter des gens, des jeunes de tout âge à devenir des ultra-gauchistes patentés pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Et on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu, c'est affligeant.
Après avoir fait polémique sur les réseaux sociaux, le jeu a été retiré à la vente sur le site internet de la FNAC. D'autres plateformes l'ont également commercialisé.
Que des gens puissent penser que de distribuer ce genre de jeu à l'attention de tout le monde est extrêmement dangereux. Et on peut penser qu'au moins il y a une complicité morale en ce sens.
Pour le moment, aucune enseigne n'a communiqué sur le sujet. Antifa le jeu a servi à former des militants fascistes pendant plus de 2 ans, avant d'être édité en septembre dernier.
Deux réactions avant de commencer. Ce jeu est en vente à la FNAC. Le syndicat des commissaires de police, un commentaire, ils interpellent la FNAC pour ainsi mettre en avant les antifas qui cassent, incendient et agressent des manifestations. Et puis le député du Nord, Victor Cato. Mais comment la FNAC peut-elle commercialiser un tel jeu, mettre à l'honneur les antifas, ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence, pour s'attaquer à notre démocratie et à ceux que nous avons de plus cher dans notre pays? Absolument scandaleux. Qui veut réagir? J'imagine que tout le monde, ça y est, ça lève les mains. Jean Messia.
Non mais quel microcéphalo-gaucho a eu l'idée de mettre ce jeu indigne en ligne? Moi, je crois que en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que comme la réalité est de plus en plus éloignée de la matrice idéologique gaucho-progressiste et extrême-gauche, là, en l'occurrence, eh bien, ils inventent un monde parallèle dans lequel leur idéologie est sauve. Sauf que ça n'existe que dans le jeu. Ça n'existe plus dans la réalité. Et la dernière chose que je voulais dire, parce que je ne vais pas être trop long, qu'est-ce qu'on aurait pensé si on avait fait le mille bornes de la rémigration?
Oui, non, mais bon.
Évidemment.
La réalité, c'est que c'est devenu un jeu. Mais au départ, c'était un outil de formation. C'est-à-dire que ça a été édité par des gens qui sont le cœur du réacteur de ces mouvements antifa, qui sont des gens qui sont des vrais politiques d'extrême gauche et qui ont créé ce jeu, entre guillemets, ils le disent, pour former. Et donc ce jeu, il n'est pas uniquement antifasciste, il est aussi anticapitaliste. Ça, ce n'est pas sur la couverture, mais c'est à l'intérieur. Ça va avec,
ça va de soi,
c'est dans la suite des choses. Et puis enfin, je veux dire, si vous voulez faire du shopping, chez cet éditeur, vous avez Tenir la rue, qui est un de leurs best-sellers. Vous avez également Fascisme et Grand Capital. Enfin bon, c'est quasiment caricatural. Est-ce qu'on finira par avoir un jeu un jour qui s'appellera l'État islamique, Action directe,
enfin, là,
ou Al-Qaïda?
N'importe quoi, là.
Pourquoi
vous êtes en plein
n'importe quoi? Pardonnez-moi.
Mais parce que, en fait.
Non, parce que vous considérez.
Attendez. À charge, il y a eu deux interventions.
Vous m'interrompez.
Il y a une seconde à décharge, non?
Je ne vous ai pas interrompu. Pourquoi vous m'interrompez?
Mais parce que vous n'êtes pas parti en plein délire. C'est pour ça.
Donc, bon. Alors, c'est vous qui déterminez le délire.
Oui, bah parce qu'on a le droit d'être anticapitaliste dans ce pays, que ça vous plaise ou non. Monsieur.
On a le droit d'être
et on ne met pas sur le même plan action directe et quelqu'un qui critique le capitalisme. Vous êtes en plein délire. Vous êtes en plein délire et on ne censure pas les âmes. Et moi, je vais vous dire, les critères, ils sont simples. Je ne vais pas acheter ce jeu-là. Je trouve ça bébête, franchement, quand je vois ça.
Non, mais vous le défendez.
Vous pouvez me laisser parler, non?
Vous l'avez coupé.
Mais interrompu, alors, ça, vous voulez.
Voilà, mais ça, on perd du temps. Alors, je vais aller sur le fond. Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est illégal? Est-ce qu'il y a, apparemment, il n'y a pas de choses illégales. Il a un couteau entre les dents. Si on doit supprimer tous les jeux vidéo où les gars, ils se tirent dessus.
Et quand on désingue du flic.
À full time. Bon. Et enfin,
quand
sur la liberté.
Flic, c'est pas illégal?
Ça suffit, là, les aboiements, là, attendez, franchement. Non. Je vais vous dire une chose toute simple. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour le rétablissement. Je suis pour le rétablissement du compte Twitter de Jean Messia, même si chaque jour, y compris sur ce plateau, je combats ces idées.
Là, je
suis pour que ces gens qui disent des choses avec lesquelles, manifestement, je suis pas d'accord, mais je ne les condamne pas, je suis pour qu'ils puissent vendre leur truc. Et la liberté d'expression, c'est aussi le discernement de chacun. Vous avez envie d'acheter ça à vos enfants? Moi, personnellement, ils sont plus en âge, d'ailleurs, d'avoir ce genre de jeu. J'ai pas envie, mais je pense que chacun est adulte et chacun est à même de savoir ce qu'on achète ou non à ses enfants.
Voilà.
Mais la censure, comme vous le faites, qui est une censure politique, monsieur, moi, je ne suis pas pour le totalitarisme. Je ne suis pas pour brûler
le totalitarisme. Vous avez parlé Marc Varneau et André Cuisier.
Ce drapeau-là, monsieur, moi, je l'ai vu chez des gens qui jetaient des cocktails Molotov sur des policiers en plein Paris. Donc, que ce drapeau-là se retrouve sur un jeu qui est vendu comme quelque chose de complètement normal, la réponse pour moi c'est non. Et je pense que ça choque beaucoup de gens. Tous ceux qui ont vécu les émeutes en décembre, des gilets jaunes, et qui ont vu ce drapeau porté par des gens qui ont mis à feu et à sang le centre de Paris, eh ben, ils doivent être très contents d'avoir un jeu aujourd'hui.
Et un jeu identitaire, hein. D'accord, un jeu d'identitaire.
Ben, je vous fais la même réponse.
Qui serait anti-immigration, qui dirait on va traiter les migrants qui violent, les migrants qui agressent.
Je vous fais la même réponse. Est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal?
Non, il y a des livres. C'est un jeu comme
ça. Des jeux, je ne sais pas pourquoi ça vous choque, mais il y a des livres qui disent des choses avec lesquelles je suis vraiment pas d'accord et que je combats. Et je suis pour que les livres soient vendus.
S'il vous plaît, Judith Vintraube.
Est-ce que les antifas, parce qu'ils se nomment Antifa et de par leurs actions, tombent sous le coup de la loi? La réponse est non, et j'ajouterais malheureusement. Je regrette que des groupes qui s'intitulent Antifa et qui commettent des violences ne fassent pas au minimum l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Vous savez que la France Insoumise, la deuxième fois consécutive, vient de demander une enquête parlementaire sur les groupes d'extrême droite. La dernière fois, 2019, la droite a demandé que les groupes d'extrême gauche fassent aussi l'objet d'une enquête.
C'est un classique, ça fait 30 ans.
Ça a été le refus et ça va recommencer. Mmh. On va enquêter sur l'extrême droite. Donc il y a matière à enquêter sur les antifas, puisque c'est ainsi que s'intitule la plupart des groupes d'extrême gauche. En ce qui concerne le jeu, puisqu'Antifa n'est pas illégal, moi j'aimerais savoir, dans votre sujet, on dit qu'on apprend aux joueurs à préparer des actions offensives. Qu'est-ce que ça veut dire que des actions offensives?
Eh bien, je vais vous le dire. Antifa, le jeu... Alors ça, c'était l'édition 2021, parce que c'est pas la première fois. Le jeu est un jeu de plateau de simulation et de gestion dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste local. Chaque joueur incarne un militant avec des compétences particulières. Alors chaque mois, qui correspond d'ailleurs à une manche, votre groupe va être confronté aux exactions d'extrême droite, et pour chaque événement auquel vous allez faire face, vous décidez quelles actions vous allez mettre en place, chacune étant plus ou moins efficace ou plus ou moins
risquée. Oui, mais quel type d'action? C'est ça la question.
Il le présentait justement, c'est les actions coup de poing quand vous avez un maire d'extrême droite qui est élu. C'est exactement ce qui était présenté dans le sujet.
Non, mais c'est pas ça. C'est quoi,
alors moi, je veux bien, vous pouvez me dire, c'est légal, pas légal. Pourquoi la FNAC a décidé de finalement, parce que médiatiquement ça commençait à monter, de le retirer?
Non, mais attendez,
parce que c'est du bon sens. Vous n'allez pas mettre des jeux antifa où vous allez casser du flic, où vous allez casser.
Attendez. Bon. Moi, je vais être très clair sur un point. Ça a été très très bien dit par Judith Vintraube. Si dans ce jeu-là, dans l'une des actions, il y a incité à la violence contre la police, c'est illégal et je serai le premier à demander que ce jeu soit retiré. Je n'ai pas entendu ça. Voilà, soyons très précis. Alors on peut faire un raisonnement par construction, comme vous l'avez fait, je le dis calmement. On peut dire, ah oui, mais ils sont antifa, donc les antifa sont contre la police. Donc tous ceux qui sont de gauche sont contre le capitalisme, donc on interdit tout. Je suis très précis. Non, mais parce que je veux que ce soit un peu constructif et qu'on ne soit pas dans l'invective. S'il y a des actes illégaux dans n'importe quel jeu, d'ailleurs, de n'importe quelle obédience.
Pardonnez-moi, vous avez la possibilité d'utiliser un personnage avec un couteau entre les dents. Je pense que vous n'avez pas besoin d'être
plus clair. Je crois que le fond du problème que vous avez touché, du bout des doigts, mais qui est le fond du problème, qui est celui de ces nouveaux aujourd'hui collectifs, qui se mettent plus en association, mais qui se mettent en collectif volontairement pour échapper à la loi. Et lorsqu'ils ne le font pas, ce qui a été le cas de certaines associations qui ont été dissoutes, eh bien, ils se font dissoudre. Donc ce collectif Antifa, qui n'est pas une association,
une
et qui donc ne tombe pas sous le coup de la loi, échappe, passe entre les fourches codines de la loi et survit une situation où, objectivement, il devrait être dissoudre.
Il y a un élément, il y a un élément très important, c'est que dans plein de jeux électroniques, d'accord, Grand Theft Auto, etc., les gens peuvent aussi tuer des policiers. Ils peuvent tuer des policiers. Ouais, là, qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est qu'en général, dans les autres jeux, c'est de la fiction. Là, c'est pas de la fiction, puisque les antifas existent. Donc, quand vous mettez des antifas, qui sont des gens qui existent, et dans le jeu duquel ils peuvent tuer du policier, là, c'est une incitation claire à la violence contre les forces de l'ordre. C'est pas la même chose.
Pour clore ce sujet-là, déjà, je salue les personnes qui, sur les réseaux sociaux, nous ont alertés, en tout cas, m'ont alerté, j'ai vu ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Bien évidemment, j'ai voulu l'acheter, sauf qu'il était en rupture de stock.
Vous l'auriez donné d'argent.
Et alors, attendez, j'ai même fait mieux. J'ai essayé de joindre la FNAC, qui ne répondait malheureusement pas. Et puis, je continuais à cliquer pour essayer. Au bout d'un moment, la page, hop, c'était fini, il n'y avait plus de page. Là, je sais pas. Alors vraiment, je suis inquiet.
C'est votre action,
Non, je pense que c'est la crise de l'énergie. Il y a des petits problèmes à la FNAC et miraculeusement, il n'y avait plus de place. Bon, voilà pour le nouveau thème. Autre chose, la crise sanitaire. Et merci, docteur, d'être avec nous. Daniel Simeka, vous êtes médecin généraliste. On est en direct également avec Grégory Pamard, qui est lui aussi médecin généraliste. Mais il y a une différence entre vous et lui. C'est que lui, depuis un an, il ne peut plus travailler. Parce qu'il n'est pas vacciné. Et il est suspendu depuis un an. La France va-t-elle subir une 9e vague de Covid? On va revenir évidemment sur les soignants qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas été réintégrés, mais revenons sur la crise sanitaire. Je donne les chiffres, hein, Nicolas Béraud du Parisien, 48 000 cas positifs au Covid ont été recensés en 24 heures. Donc on est un peu plus de 40 000 cas en moyenne sur les 7 derniers jours. Par jour, bien évidemment. Donc il y a une hausse, ça augmente dans les hôpitaux. Et donc rebelote, les scientifiques appellent à ressortir le masque dans les transports en commun. Vous avez dit, ça me tue. Arnaud Robinet, maire de Reims, président de la Fédération hospitalière de France, est pour. On l'écoute.
Je pense que le retour du masque est une possibilité.
Pas une obligation, pas une contrainte.
Pas une contrainte, une possibilité, notamment dans les transports. Que ce soit fait, je prends aussi régulièrement les transports en commun. Il est vrai que dans les transports un peu bondés, nous sommes les uns contre les autres et forcément ça facilite la propagation des virus. Donc il faudrait que le gouvernement donne la possibilité aux maires de pouvoir instaurer le port du masque dans les transports en commun en fonction des spécificités du territoire et des horaires. Mais je pense que le masque peut être un outil extrêmement important limiter la propagation. Ben, le plus tôt possible serait le mieux.
Parce qu'il y a les achats de Noël. Mais
bien sûr.
Au-delà des transports, il y a du brassage.
Il y a du brassage.
Et il va y en avoir encore plus.
Moi, je crois aussi à la responsabilité de nos concitoyens. On le voit dans certains commerces aujourd'hui, certains portent le masque d'eux-mêmes. Mais dans les transports en commun, il faut à tout prix le port du masque, qu'on donne la possibilité aux maires de pouvoir l'instaurer le plus tôt possible.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Daniel Simeka, de cette 9e vague? Deuxième question, le port du masque dans les transports en commun, bonne ou mauvaise idée?
Alors, il faut s'inquiéter certainement, probablement moins qu'auparavant et probablement moins qu'en 2020 et en 2021. On n'est plus dans la même situation. On a quand même une couverture vaccinale, même si elle s'épuise, même si les gens tardent à faire leur dose de rappel. Mais on voit bien en pratique...
Et pourquoi elle tarde, cette dose de rappel?
On voit beaucoup de Covid actuellement, mais on ne voit pas tellement, enfin en tout cas en ville, on voit beaucoup moins, infiniment moins de Covid grave. Pourquoi ça tarde? Je crois que on paye aujourd'hui l'addition d'une politique sanitaire qui a été absolument pas pédagogique, qui a été surtout brutale et arrogante.
Ça, c'est vrai.
Donc moi, je dois dire que je me suis toujours battu depuis le départ. Hein, j'ai milité pour cette vaccination, y compris parmi mes confrères qui parfois faisaient un petit peu de résistance dans le milieu, en particulier des approches un petit peu des thérapeutiques alternatives.
Oui.
J'ai milité pour la vaccination. Par contre, j'ai toujours considéré que l'obligation était une imbécilité, était une erreur politique, pardon. Et donc, à partir du moment où on a fait cette erreur maintenant, une fois que c'est fait, vous vous rendez compte du message qu'on va envoyer à la population? On va envoyer à la population, ben finalement, peut-être, on va les reprendre, etc. C'est impossible.
Bon, pas de masque obligatoire dans les transports.
Mais quelle cohérence.
Vous pensez qu'à dire « on ne s'est pas trompé, on n'est plus crédible »
Mais alors, d'abord,
tous les médecins vous expliquent que les vaccins n'empêchent pas la contaminé.
Non, c'est l'obligation pour le tour. C'était pour le masque, c'est ça.
Pas du tout. Attendez, on ne peut pas dire que la vaccination empêche.
On va y venir sur la vaccination, c'est un autre thème. Attendez, un
instant. Vous savez qui le dit, Antoine Flao.
Mais écoutez.
Excusez-moi du peu. Moi, c'est le pote.
Tout ce dont je peux témoigner, c'est ce que moi je pense et je dis.
Daniel Simeka, quand vous disiez, quand vous étiez en train de nous expliquer que c'était un choix politique mauvais, c'était sur le masque obligatoire, pas sur la vaccination.
Non,
sur la vaccination obligatoire.
Je regrette. On n'ait pas été davantage pédagogique sur cette histoire de vaccination, et particulièrement sur les soignants. Il faut que la politique de santé soit cohérente. Maintenant, on va jusqu'au bout. Concernant, vous m'avez posé une question sur les transports.
Oui.
Là, moi, depuis le départ, j'ai trouvé que c'était idiot d'enlever l'obligation dans les transports urbains, j'entends, hein, dans les transports urbains.
Donc vous êtes pas pour le port du masque dans les transports.
Absolument.
On va demander on va poser la question à Grégory Pamard. Merci d'être avec nous, Grégory Pamard. Vous êtes également médecin généraliste, sauf que vous êtes aujourd'hui suspendu depuis un an, puisque vous n'êtes pas vacciné. Le port du masque dans les transports en commun, bonne ou mauvaise idée ?
Ben, moi, j'ai envie de revenir à ce qu'on sait déjà, hein, au niveau de la science. Pourquoi est-ce qu'en 2022, on devrait porter des masques dans les transports en commun ou où que ce soit, alors qu'en 2020, on nous disait bien que ça ne servait à rien ? Et si on revient à ça, on est à la 9e vague. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on y est, on compte les vagues, on s'inquiète à chaque nouvelle vague, et on continue à nous dire qu'il faut mettre une bouée pour se protéger.
Votre argument, il est un peu léger, tout simplement parce qu'en 2020, on n'avait pas toutes les informations dont on dispose aujourd'hui. Je m'attendais à ce que... En plus de cela, on n'avait pas de masque. Mais je vous reprends dans un instant, cher docteur, pour parler des soignants qui ne sont pas réintégrés. Marc Varnaud sur le port du masque, et ensuite on parlera du vaccin.
Je crois que sur le port du masque, comme sur beaucoup de décisions que prend le gouvernement, la première question qu'il doit se poser, c'est est-ce qu'il a les moyens de le faire respecter ? Moi, je reviens là-dessus parce que l'autorité de l'État est aujourd'hui un sujet majeur, et de demander à ce que le masque soit rendu obligatoire, personnellement, j'y vois aucun problème, mais encore faut-il pouvoir le faire appliquer. Moi, j'ai souvenir quand même, pour avoir pris beaucoup le train à une certaine époque, que c'était absolument pas respecté et que personne, aucun contrôleur, aucun policier ne disait quoi que ce soit. Donc interdire quelque chose, si on ne le fait pas respecter, il vaut mieux rien interdire.
Non, mais peut-être que on a appris beaucoup. Franchement, il y a eu des éléments de, j'ose pas dire dictature, mais de décisions sanitaires extrêmement violentes. Souvenez-vous de l'auto-autorisation avec le contrôle de l'autorisation par les gendarmes. Enfin, on croit rêver. Or, je crois que les Français ont beaucoup appris. C'est comme tout sur le reste. Hein, ils choisissent les jeux qu'ils veulent. Et ils sont capables de savoir s'ils sont en risque ou pas. Moi, je suis allé au spectacle l'autre jour. Il y avait beaucoup de personnes âgées, notamment fragiles. Peut-être qu'elles ne pouvaient pas être vaccinées. Certaines avaient le masque FFP2, d'autres avaient un simple masque. Et je trouve que c'est plutôt la pédagogie sur la réalité de cette 9e vague qu'il faut encourager et non pas rentrer dans des délires. D'autant que je vous le dis, moi j'ai été vacciné le nombre de fois nécessaire par un célèbre vaccin dont je ne ferai pas la publicité. Mais depuis, comme simple citoyen un peu éclairé, je m'informe des effets indésirables de ces vaccins. Et la balance bénéfice-risque, on peut l'interroger aussi en ce qui concerne des populations qui ne sont pas vulnérables. Et je le dis pour introduire le débat de tout à l'heure, franchement, je sais à quel point et le nombre de soignants qu'on a forcés à aller covidés à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de personnel, c'est une folie de ne pas les réintégrer.
Et évidemment, vous me faites la transition, mais un peu trop tôt parce que je veux qu'on reste sur les transports en commun. Parce que la vague sanitaire, on connaît l'histoire, maintenant ça fait 2 ans que ça dure. C'est-à-dire que vous avez 40 000 cas aujourd'hui quotidiens, probablement dans les semaines qui vont venir ça va augmenter, et vous allez avoir une hausse dans les hôpitaux, sauf que se conjugue à cette crise de Covid, vous avez la bronchiolite, vous avez la grippe, donc l'obligation dans les transports en commun, elle va arriver très rapidement, trop rapidement. Sauf que le libre arbitre, dans ces cas-là, avec la théorie du tout sanitaire, vous la mettez de côté. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Jean Messia, vous êtes pour le port du masque dans les transports en commun ?
Je suis pour qu'on passe en mode recommandation, parce que je crois que ça a été dit que les Français en ont marre des diktats, quoi. C'est tout. Je pense que les Français ne sont pas des enfants. Chaque Français,
en plus,
chaque Français est capable de savoir son propre intérêt, de se protéger lui-même s'il le souhaite. Je pense qu'il y a des catégories, on l'a dit mille fois, et des catégories vulnérables à raison de son âge ou à raison de comorbidité. Eh bien, ces catégories doivent être à jour de leur vaccin et doivent éventuellement porter le masque, même sûrement porter le masque pour se protéger. Voilà, les autres catégories, quand on a moins de 30 ans, eh bien, il y a infiniment moins de risques et d'attraper le Covid et encore moins d'en mourir ou d'attraper des formes légères. Voilà, c'est tout. Donc chacun doit, en responsabilité, décider de ce qui est bon pour lui.
Professeur Megarban, qui était avec nous hier, qui revient justement sur cette 9e vague. Écoutez.
Nous sommes au pied de cette fameuse 9e vague avec une augmentation des contaminations. Désormais, le nombre de patients admis à l'hôpital et en réanimation ne baisse plus, voire même commence légèrement à augmenter. Malheureusement, il se pourrait que l'immunité collective que nous avons acquis à la suite des différentes vagues, mais également à la suite de la vaccination collective, eh bien, désormais soit moins bonne pour faire face aux nouveaux variants qui sévissent. Ce d'autant plus qu'un pourcentage désormais relativement faible des personnes les plus âgées, les plus fragiles, ont reçu leur dose de rappel, leur fameuse quatrième dose ou deuxième dose de rappel.
Daniel Simeka, est-ce qu'il est possible que cette dose de rappel, qui n'est pas du tout efficace, du moins dans la part des Français qui font cette dose de rappel, c'est-à-dire que ça avance très lentement comparé au Royaume-Uni par exemple, est-ce qu'on peut se imaginer que c'est dû à finalement ces Français qui considèrent que ce vaccin, comme il ne protège pas de la contamination et que on peut aussi le transmettre parce que on est, même si on est vacciné, ils se disent la dose de rappel ça sert pas à grand chose.
On a présenté les choses de façon extrêmement machiavélique, c'est-à-dire manichéenne. C'est-à-dire que un vaccin, où il protège ou il protège pas, où il empêche de circuler ou il empêche pas, c'est pas comme ça la vraie vie. C'est pas comme ça, et on ne peut pas dire qu'un vaccin, il empêche totalement ou qu'il empêche pas du tout. Actuellement, il y a une couverture vaccinale, et là où je suis pas tout à fait d'accord pour une fois avec le professeur Megarban, c'est effectivement que l'immunité collective, d'ailleurs ce terme d'immunité collective mériterait d'être un petit peu commenté, mais disons que la couverture vaccinale sur l'ensemble de la population, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pourquoi ? Parce que le vaccin actualisé avec l'Omicron, le nouveau vaccin, il a énormément tardé. Il est arrivé avec des mois de retard. Résultat des courses, depuis le mois de janvier, ce qu'on voit en ville, on voit plein de Covid. Alors qu'à l'automne 2021, on voyait que des Covid chez les non-vaccinés.
Bien sûr.
Depuis janvier, on voit que des Covid chez des gens vaccinés.
C'est ça.
Or, une maladie, elle est immunisante aussi. Et elle est immunisante à la fois sur le plan des anticorps, mais aussi sur l'immunité cellulaire.
Avant ça, donc, autre.
Du coup, il y a quand même une immunité, une couverture immunitaire de la population qui n'est pas si mauvaise que ça.
D'accord. Parce qu'on disait avant le vaccin. C'est plutôt. Mais avant le vaccin, on apprend, on tâtonne, ça je peux l'entendre. Mais... En revanche, sur la réintégration des soignants non vaccinés, ça c'est la question qui est centrale. On va écouter justement le monsieur Robinet, qui est le président de la Fédération hospitalière de France. On peut se poser la question. Qu'elle soit scientifique d'ailleurs la question, qu'elle soit politique la question. Mais pour M. Robinet, il n'y a pas de débat. Écoutez.
Pour moi, le débat n'a pas lieu d'être.
Non.
Si je prends le cas des infirmiers ou infirmières, ils sont entre 600 et 650 000 dans l'hôpital et ça représente 400 à 500 infirmiers ou infirmières. Il y a 1,2 million d'agents dans la fonction publique hospitalière et ça concerne 4 000 agents. Donc,
c'est pas ça qui va résoudre le problème.
Bien évidemment.
Au contraire,
vous savez,
peut-être.
Oui, parce qu'il y a une question d'éthique vis-à-vis des 99% des agents hospitaliers qui, eux, sont vaccinés. Et donc, on est plus sur un sujet politique que sur un sujet sanitaire dans ce cas-là, dans les débats que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas pour moi, aux députés, de se saisir de ce sujet, mais à la haute autorité de santé de donner un avis sur la réintégration ou non de ces agents hospitaliers.
Donc on a trouvé le petit frère de Martin Hirsch.
Non mais attendez, de grâce, il faut qu'on arrête avec cet argument bidon qui consiste à dire on attend que la haute autorité de santé décide pour le politique.
Surtout que ça dépend des jours.
Et ça dépend pour les écoles, etc. Macron, exactement. Exactement. Donc on arrête quand ça nous arrange, quand ça arrange le gouvernement. Il se carapate derrière les décisions scientifiques et quand il sent que la situation est un peu tendue au plan politique parce que le corps social résiste, eh bien là, il n'y a plus d'haute autorité de santé. La question que je pose, et je vous la pose à vous, puisque vous êtes en faveur donc de l'attitude actuelle du gouvernement qui consiste à ne pas réintégrer les soignants, comment expliquez-vous que la quasi-totalité des pays européens ont, eux, décidé d'intégrer leurs soignants non vaccinés alors même, avec tout le respect que je dois pour les scientifiques français, alors qu'eux-mêmes ont des collèges de scientifiques.
Et les questions, c'est court, si vous voulez poser des questions, Jean Messia. Daniel, si.
Écoutez, moi, la raison pour laquelle j'adopte pas la même position que ce qu'on vient d'entendre, moi, je suis plutôt contre, pour un souci, parce qu'il faut être cohérent. À un moment donné, quand on a une politique de santé, il faut la mener jusqu'au bout. D'autre part...
Attendez, ça veut dire quoi, la cohérence?
Non, mais moi, ça m'intéresse. Principal, parce que je suis bien d'accord sur ce que disait M. Calfon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, être un professionnel non vacciné ou être un professionnel covidé qui va quand même au travail, il n'y a pas grande différence. Ce n'est pas sur le plan du danger. Le danger, il n'existe pas. Ce n'est pas cela. Moi, j'ai eu, y compris parmi des gens extrêmement proches de moi, des professionnels de santé qui ont préféré arrêter leur activité, laisser tomber toute leur patientèle plutôt que d'avoir une piqûre. Mais, moi, j'ai été extrêmement choqué par ce type d'attitude.
Vous êtes choqué? C'est l'attitude, par exemple, du docteur Grégory Pamar, cher Daniel Siméca. Claude Siméca, pardon. Daniel. Grégory Pamar, j'en perds mes mots. Grégory Pamar, par exemple, votre confrère Daniel Siméca dit qu'il est choqué lorsque... il a pu voir de ces derniers mois que des médecins ont préféré arrêter leur activité plutôt que de recevoir le vaccin. C'est exactement votre profil, puisque vous, depuis un an, vous ne travaillez plus, vous n'avez plus aucune aide d'ailleurs, et surtout, vous ne pouvez plus revoir vos patients. Qu'est-ce que vous répondez au docteur Daniel Siméca ?
Eh ben, une toute petite digression d'abord, c'est que pour des médecins qui ont fait, ou des soignants qui ont fait mon choix, il y en a aussi beaucoup qui ont été forcés, et ça on n'en parle pas. On nous dit les 99% qui ont choisi de se faire vacciner, c'est faux. Hein, avant le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet 2021, on était à 60% de personnel vacciné dans les hôpitaux. Donc il y a 40% des soignants qui ont été forcés parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité, comme moi, d'arrêter de travailler. Parce que c'était ça, nourrir leurs gosses, ou se faire piquer contre leur volonté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et il faut encore en parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de quatrième dose chez les soignants? En tout cas, il y a une couverture très faible de quatrième dose chez les soignants, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Et donc, ça montre bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, et qu'ils ont été forcés. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave. C'est une rupture complète dans le libre consentement aux soins. Et c'est vraiment quelque chose de dramatique. Et puis sinon, après, pour mon choix personnel, alors est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Donc il faut me punir, c'est ça? On est dans une société punitive, et par idéologie, comme je ne me conforme pas, il faut surtout me punir jusqu'au bout. Non, on s'est rendu compte. Alors on le savait, je suis d'accord avec vous, on le savait déjà quand il y a eu l'essai de Pfizer au départ, que ça n'empêchait pas la transmission, mais on ne le disait pas. Et sur les plateaux télé, vous étiez nombreux à dire qu'on se vaccinait pour éviter de transmettre. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique, c'est tout. On le sait tous, il faut le reconnaître. Et il y aurait, je ne sais pas, une grandeur à reconnaître que...
Grégory Pamar, c'est intéressant de votre avis. Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, car il est quasiment 23h. Grégory Pamar est médecin généraliste. Et c'est un soignant qui est suspendu car non vacciné. Daniel Siméca est également médecin généraliste. Et j'ai voulu vous mettre, non pas face à face, mais parce que c'est deux visions différentes. Vous vous dites, les soignants non vaccinés, eh ben, il ne faut pas les réintégrer. Donc vous dites quoi aujourd'hui à Grégory Pamar, à un de vos confrères qui a arrêté de bosser depuis un an parce qu'il dit, moi le vaccin, je n'ai pas envie. Idéologiquement, je suis pas en accord avec ça et je préfère arrêter mon activité. Vous trouvez qu'il perd la raison en quelque sorte?
C'est pas qu'il perd la raison.
Vous voulez parler directement, il vous entend.
Individuel, quelqu'un que je vois là sur mon écran, moi ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un confrère, hein, c'est un confrère et donc il y a le côté affectif. Moi je regrette, mais en même temps. J'ai pas terminé mon propos tout à l'heure. Écoutez, quand on regarde certains reportages, on voit en Syrie, on a vu dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, des médecins qui travaillent dans des conditions absolument effroyables et qui prennent des risques énormes pour pouvoir porter assistance à leurs patients, aux populations dont ils s'occupent. Donc, je répète que je trouve assez choquant qu'un médecin arrête et laisse, entre guillemets, un petit peu en panne sa patientèle pour une histoire de conviction personnelle. J'ai envie de dire un petit peu aussi ténu.
Vous êtes en train de dire que c'est égoïste. Voilà, faisons la clair et on va faire le point sur l'information. Et cette notion d'égoïsme, on posera la question à Grégory Pamar juste après le point sur l'information. Oui, il faut être efficace.
Une hausse de 20% des exportations en France sur les 9 premiers mois. Selon un bilan publié par Business France, les exportations de biens ont atteint 439 milliards d'euros. Un bilan toutefois en trompe-l'œil à cause de l'inflation. Elle plombe les chiffres du commerce extérieur, se traduisant par un déficit commercial historiquement mauvais en 2022. Le gouvernement italien a proclamé l'état d'urgence pour l'île d'Ischia après l'important glissement de terrain qui a fait au moins 4 morts. Une enveloppe d'urgence de 2 millions d'euros a été débloquée et les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver une dizaine de disparus. Des violences ont éclaté ce soir à Bruxelles après la victoire 2-0 du Maroc contre la Belgique à la Coupe du Monde de football. Quelques dizaines de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ils ont également incendié une voiture et du mobilier urbain. Des incidents ont aussi éclaté à Anvers où une dizaine de personnes ont été arrêtées. Et à Paris, malgré majoritairement des scènes de liesse, quelques tensions à noter sur les Champs-Élysées.
Voilà pour le point sur l'information. On continue le débat, je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent. S'il vous plaît, les amis.
Oui.
Bah non, mais franchement, c'est pas sympa.
Pardon.
Vous êtes distrait aujourd'hui. Vraiment, vous êtes pas sympa.
Mais non, mais c'est qu'on a la passion du débat qui continue à la coupure pub.
Évitons. Allez, 23h. Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent. On est avec Judith Vintraud, Marc Varnaud, Jean Messia, François Calfon, Daniel Simeka. Daniel Simeka, vous êtes médecin généraliste et vous étiez face à Grégory Pamart, également médecin généraliste. Sauf que vous avez finalement deux visions différentes. Vous vous êtes fait vacciner et donc vous continuez votre activité. Et Grégory Pamart, depuis un an, n'est plus en activité parce qu'il a été mis sur la touche, parce que non vacciné. Pour résumer très rapidement et peut-être un peu trop grossièrement votre réflexion, vous avez dit mais finalement, il faut se faire vacciner parce que sans le vaccin, eh bien, on perd toute la clientèle, on n'aide plus, on n'aide plus nos patients, on ne peut plus soigner et il y a quelque chose d'un peu, on va dire... Alors, vous n'avez pas aimé le mot égoïste, mais individualiste. Vous préférez
là,
peut-être ?
Peut-être on perd le centre de sa mission, qui est de, quand même de porter assistance et aussi, quelles que soient les conditions, si je puis dire, de danger quand même. Beaucoup
d'accord.
de médecins se mettent en danger pour pouvoir assurer leur mission.
Oui.
Hein, bon, pas moi dans la banlieue parisienne, mais enfin regardez dans des lieux de guerre, dans des lieux de terrorisme.
Non mais
terrorisme,
j'entends, mais d'accord. Donc,
ça n'a rien à voir avec une piqûre.
Bah, Grégory Pamart, vous répondez quoi à cela ?
Eh ben, on peut parler de danger, de mise en danger, et c'est assez intéressant qu'on en parle parce que en décembre dernier, j'ai été appelé auprès d'un patient qui avait la Covid, qui allait très mal, qui ne voulait pas aller à l'hôpital. Et son médecin lui aurait dit il faut aller à l'hôpital parce que vous avez besoin d'oxygène et moi je ne ferai rien pour vous. Et je suis allé soigner ce patient. Je l'ai soigné comme j'ai soigné tous mes patients atteints de Covid. J'ai soigné comme j'ai appris à soigner la Covid. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour ce monsieur. Il va bien aujourd'hui et je suis attaqué par le Conseil de l'Ordre pour ça. Alors vous voyez, la mise en danger, elle est là aussi. Non seulement je n'accepte pas effectivement qu'on me force à prendre un produit de santé que je ne veux pas, je défends l'idée d'une médecine qui est que soigner les gens, ce n'est pas juste leur imposer des traitements, c'est les accompagner. Et puis je me mets complètement en danger puisque quand je me retrouve à devoir soigner une personne en danger, je suis attaqué par le Conseil de l'Ordre pour ça. Donc je n'ai pas cessé de faire mon métier de médecin. Je n'ai pas cessé de porter assistance à celui qui en avait besoin. Et j'ai des soucis administratifs pour ça.
Qu'on soit bien clair, Grégory Pamart, pour être complètement transparent, vous n'êtes pas anti-vax, vous n'êtes pas contre ce vaccin.
Je ne suis pas contre la vaccination générale. Je pense que le bénéfice et la sécurité de ce vaccin n'est pas au rendez-vous. Qu'un vaccin qu'il faut refaire tous les 3 mois et qui peut présenter des dangers, et ça on n'en sait rien, puisqu'on est seulement aux prémices de cette technologie. Je pense que, en tout cas pour quelqu'un de jeune et en bonne santé, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour
en
moi.
Revanche,
le jeu n'en voulait pas la chandelle pour moi personnellement.
Ça s'entend. Ça s'entend justement, Grégory Pamart. Dernière question, et là on est très clair. J'ai 22 ans, je suis en pleine forme, mais j'ai envie de me faire vacciner. Je viens dans votre cabinet. Vous me vaccinez ou pas ?
Eh bien, on l'avait évoqué il y a quelques jours. La première chose, c'est qu'on va discuter ensemble.
Oui.
Moi, je vais vous informer. La décision de me faire vacciner, en étant informé, en étant conscient des tenants et des aboutissants, je ne m'y opposerai vraiment pas, effectivement. Et je ne m'y suis pas opposé. Et j'ai des patients qui sont venus me voir au cabinet en me disant, docteur, on sait que vous n'étiez pas forcément à fond pour et nous, on est vaccinés, vous ne nous en voulez pas ? Évidemment, non. J'ai commencé par les rassurer et leur expliquer qu'ils ont tout à fait la possibilité de faire leur choix. C'est un essentiel de la médecine, ça, de laisser le patient faire son choix.
Autre réaction cet après-midi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Grégory Pamart, donc médecin généraliste, aujourd'hui suspendu parce que non vacciné. Clémentine Autain qui a réagi sur la réintégration des soignants non vaccinés. On l'écoute.
Nous estimons d'abord que le virus n'a plus la férocité qu'il avait au début. Vous le savez, comme tous les virus de ce type, hein, sinon on serait encore avec la grippe espagnole. À un moment donné, elle s'adoucit, que par ailleurs, notamment dans les Outre-mer, il était temps d'effacer l'ardoise, qui est une ardoise complexe, qui est liée aussi au chlordécone, qui est liée à plein de choses, hein, et aussi, éventuellement, je l'assume, à des courants qui peuvent être des courants obscurantistes qui peuvent se développer. Mais la responsabilité de la parole officielle, de la parole de l'État, dans les Outre-mer en particulier, est liée au fait qu'on les a laissés dans l'abandon le plus complet face au chlordécone, et que les hôpitaux là-bas sont dans le chaos complet, s'écroulent. Donc, entendre que cette proposition est non pas une remise en cause de la vaccination, mais une solution concrète qui ne met pas en danger les patients et qui permet de faire revenir des soignants dans un espace qui en a bien besoin.
Un dernier mot sur la réintégration des soignants non vaccinés, Marc Varnaud. Et ensuite, on parlera de la stratégie zéro Covid.
Je crois que même en matière pénale, criminelle, il y a une prescription. Je veux dire, la prescription, elle va être quand pour les médecins non vaccinés? Je crois qu'à un moment, il faut les réintégrer, passer à autre chose. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas éternellement traîner ce sujet. Bon, ils n'ont pas voulu se vacciner. Aujourd'hui, le Covid est moins violent. Bon, passons à autre chose, on les réintègre et voilà, point.
Surtout, je rejette ce que vous dites. Effectivement, peut-être que c'est une reconnaissance d'erreur. Mais là, on les maintenant suspendus, c'est une erreur encore plus grave parce que l'hôpital en a besoin.
Mais
l'hôpital
c'est pas une est surchargé. De les avoir vaccinés. C'est une erreur. C'est une erreur politique d'avoir fait une obligation aussi brutale et aussi arrogante.
Oui, mais vous savez, on se grandit à reconnaître ses erreurs. Hein.
Une dernière question, docteur Simeka. Pourquoi tous les pays en Europe lèvent cette restriction?
Est-ce que Macron veut...
Pourquoi J'ai tous les pays en Europe lèvent cette restriction et nous on reste et on maintient là-dessus? Il devrait y avoir consensus. Si aujourd'hui un soignant, c'est indispensable qu'il soit vacciné, il devrait y avoir consensus. Et je vais même vous proposer quelque chose. Je vais vous montrer un cas pratique. Vous avez deux soignants face à vous. Vous avez le soignant A, triplement vacciné, mais qui n'est jamais testé et qui fait sa vie, va au restaurant, va au cinéma, sort. Vous avez le soignant B, qui est non vacciné, qui est testé quotidiennement et qui porte un masque, comme le soignant A d'ailleurs, mais qui a finalement une activité très sérieuse, c'est-à-dire qu'on va surveiller attentivement, comme le lait sur le feu, tous les matins, s'il est négatif, avec lequel on prend le plus de risques.
Mais je vous...
Ah non, mais répondez là pour le coup.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu avant que vous me posiez la question, c'est pas un problème de risque. C'est pas un problème de risque. Le risque, il est équivalent.
Donc c'est une question de morale.
Il est équivalent. C'est politique. Une question de cohérence.
Quelle cohérence y a-t-il à persévérer dans l'erreur?
D'autre part, je crois pas que ce soit une question d'erreur. C'est ça
le vaccin n'empêche pas la condamnation.
En réalité, il y a quand même une chose simple. On se souvient de M. Macron qui nous a dit « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre ». Et bien dans cette guerre-là, il n'y a pas la Russie contre l'Ukraine, il y a un virus. Et il n'y a pas ni vainqueur ni vaincu. Et nous avons un gouvernement et un président de la République, puisqu'il assimile les anti-vax, aux gilets jaunes, bref, aux gens qui sont contre lui, qui continue à pointer du doigt ces populations-là, alors que je le dis avec une grande force, quand il y avait des problèmes de personnel pendant ce plan blanc, les soignants étaient massivement contaminés. On allait les envoyer au feu, c'est le cas de le dire, parce que avec des gens immunodéprimés qui prenaient le plus grand risque. Et aujourd'hui, quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, il y a une commission justice et réconciliation. Bon. Il y a une paix des braves.
Et
quand on est grand, on se grandit à être capable de prononcer la paix des braves.
Peut-être sur ce thème et cet unique thème que Emmanuel Macron sort de son en même temps où rappelez-vous cette phrase, il compte emmerder les non vaccinés jusqu'au bout et qu'il y a le jusqu'au boutisme. Regardez ce qui se passe parce qu'il ne faut pas non plus considérer qu'on est dans une dictature sanitaire en France. Il faut aussi raison garder. Et regardez ce qui se passe actuellement en Chine avec des mouvements qui sont affolants, avec une population qui est en train de se rebeller un peu partout en Chine. Je n'ai pas pu passer parce que je n'avais pas les droits sur les images. Et j'invite les téléspectateurs à regarder. Vous avez un reporter correspondant pour la télé suisse qui va être pris en duplex, qui va raconter ce qui se passe à Shanghai. Et il est obligé d'arrêter son direct en disant « Mais attendez, je continue ». Les 30 prochaines secondes, je suis avec vous, mais vous allez voir juste après, malheureusement, je dois être interpellé par les policiers chinois et je fonce au commissariat. C'est RTS, la télé suisse. J'invite tous les téléspectateurs à voir cette séquence qui est complètement saisissante et folle. Voyez le sujet de Marine Sabourin sur la stratégie zéro Covid et puis après, on a plein d'autres thèmes jusqu'à un peu plus tôt, 23h40.
Ces manifestants brandissent des papiers blancs vierges pour dénoncer la censure exercée dans leur pays. Confinement à outrance, mise en quarantaine systématique des cas contacts dans des camps et tests PCR obligatoires, la politique très stricte du zéro Covid en Chine provoque la colère de la population depuis plusieurs jours à l'égard du gouvernement et des policiers. Sur cette vidéo, par exemple, un homme est arrêté brutalement parce qu'il conteste le régime communiste chinois. Tout le week-end, de nombreux habitants ont rendu hommage aux 10 personnes tuées dans l'incendie survenu jeudi à Urumqi, dans la province du Xinjiang. Sur les réseaux sociaux, de nombreux posts accusent les mesures anti-Covid d'avoir aggravé le drame en ralentissant l'arrivée des secours. Des scènes de contestation rares, à l'image de cette autre vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux où plusieurs dizaines de manifestants somment le président chinois de démissionner. Malgré plusieurs vaccins mis à disposition, les autorités ont fermé une grande partie des écoles, restaurants et lieux touristiques et continuent d'imposer des confinements et des tests PCR quasi quotidiens pour accéder aux lieux publics.
L'analyse du docteur d'abord, docteur Simeka, affolante cette stratégie zéro Covid en Chine et cette rébellion.
Délirante d'abord.
Excusez-moi,
je ne suis pas le psychanalyste d'aucun président de grand État, mais là, on est quand même dans quelque chose d'obsessionnel et d'incohérent. Il a forcément autour de lui des médecins, des spécialistes, des biologistes, des virologues qui doivent lui expliquer que les virus traversent le béton, que c'est impossible, que cette stratégie zéro Covid est vouée de toute façon à l'échec et qu'il va au fur et à mesure se
ridiculiser. Je rappelle que c'est la Chine qui a lancé la théorie du confinement. Hein. C'est eux les premiers à avoir confiné tout le monde entier.
Le virus lui-même.
Oui, c'est le monde entier qui a suivi.
Mais pardon, là, vous parlez d'incohérence. Ils sont au contraire extrêmement cohérents. Bah oui. Ils font la même chose depuis le début.
Sauf que ça ne marche pas.
Oui,
c'est pas là que ça ne marche pas.
Comme le vaccin.
En fait, on oublie de dire...
Si je peux dire juste un mot. En réalité, ce qui se passe en Chine, pour moi, est extrêmement intéressant parce que c'est complètement déconnecté du Covid. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime chinois s'est construit d'abord économiquement depuis l'OMC 95 et multiplié son PIB par 16 par l'obéissance militaire et génétique des Chinois. Les Chinois, le 1 400 000 000 de Chinois, sont extrêmement obéissants et ça, c'est l'élément fondateur de la Chine d'aujourd'hui. Sauf que ils ont décidé, effectivement, dans leur théorie militariste, de confiner, non pas quelques millions, mais 500 millions de Chinois. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Chinois aujourd'hui qui sont confinés. Il n'y a pas d'image, c'est discret, ça ne se voit pas. Sauf à Zhengzhou, où il y a l'usine de Foxconn, la fameuse avec 1 million de salariés, c'est celle qu'on voit, qui est l'usine qui fabrique nos iPhones. Et là, effectivement, ils n'ont pas réussi à contrôler les images. Et ils ont 500 millions de personnes confinées pour 30 000 cas par jour. C'est du délire absolu. Mais par contre, ça va marquer une date, un marqueur. C'est la première fois
que la population se révolte
à ce point-là.
Que la révolte.
Alors déjà, il faudrait venir à l'origine de cette pandémie dont tout le monde sait que ce n'est pas le pangolin, mais le laboratoire P4 de Wuhan, d'ailleurs financé par les États-Unis et la France. Il n'y a pas que les Français. Et dont on ne saura jamais, puisqu'il y a eu une commission d'enquête, pas de l'OMS qui est achetée par la Chine, mais par les autorités américaines pour le coup, on ne saura jamais quelle est la vraie origine de ce virus. Est-ce que c'est un virus chimère? Il y avait toute une collection de coronavirus. Non, mais et donc les Chinois savent très bien à quel point ils sont responsables de cette pandémie mondiale et ils le vivent comme je parle des autorités chinoises. Ils le vivent comme une humiliation suprême. Depuis, on dit est-ce que c'est une dictature sanitaire en Chine? Mais avant même d'être une dictature sanitaire, la Chine est une dictature. La Chine, c'est une dictature politique. La Chine, c'est une dictature économique, parce que même en économie, il n'y a que M. Raffarin qui pense qu'on est libre. En réalité, on est obligé d'avoir des membres du Parti communiste chinois dans les joint ventures si on veut développer l'économie là-bas. Et la Chine, même, c'est un État prédateur. Donc la réalité, elle est là, et ce système explose. Mais malheureusement, je crois que quelques images se sont échappées. Je crois que le système policier chinois va envoyer tous ces gens dans des camps de travail, n'est-ce pas ?
Je pense que c'est plus compliqué que cela, c'est-à-dire qu'il y a une règle immuable qui est que lorsqu'un pays s'enrichit économiquement, eh bien, viennent les revendications politiques. La Corée du Sud, par exemple, qui était une dictature pendant des années, lorsqu'elle est arrivée à un PIB suffisant par habitant, eh bien, ils ont réclamé une démocratie. On a eu effectivement des revendications, des manifestations monstres dans la rue. Là, effectivement, la dictature chinoise a commencé à craquer parce que le libéralisme pratiqué de manière dictatoriale en Chine a sorti de la pauvreté en Chine des centaines de millions de personnes. Or, l'homme ne vivant pas seulement que de pain, pour paraphraser l'évangile, il y a effectivement une demande, à travers les réseaux sociaux, etc., une demande de liberté politique. Et donc le gouvernement chinois s'est saisi de ce virus. C'était déjà une dictature, mais comment proroger la dictature ?
Pour remettre le couvercle.
Exactement, pour remettre le couvercle et éteindre toute forme de revendication et toute forme de demande politique.
Voilà ce
politique
qu'on pourrait dire sur cette thématique. Une dernière chose avec vous, docteur Simeka. Peut-être qu'avec un peu de recul, dans 5, 10 ans, on essaiera de se demander si ce confinement qu'on a vécu, extrêmement strict, où tout le monde était confiné, personnes fragiles comme les plus jeunes, la France s'est confinée du jour au lendemain, le monde s'est confiné du jour au lendemain. Est-ce que finalement, peut-être qu'on pourra se poser la question dans 10 ans, en se disant c'était peut-être une décision radicale, peut-être pas si efficace que ça.
Écoutez, moi j'ai passé mon temps à le dire que effectivement, une épidémie où on ne confine pas les gens malades, mais on confine les bien portants, ça devait être peut-être un peu plus réfléchi. Ça n'a pas été le cas et ça a été particulièrement brutal dans tous les pays occidentaux et particulièrement en France.
On a déjà fait des études, je pense notamment à l'étude faite par l'Institut dirigé par Martin Blachier, qui a calculé en années de vie perdues, en faisant la comparaison, les années de vie perdues à cause des mesures contraignantes, que ce soit le confinement, le couvre-feu, sont plus importantes que les années de vie gagnées grâce à ces mesures.
Et les ravages psychologiques et la vague psychiatrique qui est due à ces nombreux et la baisse du niveau scolaire, mais vraiment cette vague psychiatrique, c'est-à-dire que les dépressions, les gens qui ont perdu confiance en eux,
les enfants,
les jeunes étudiants qui ont perdu 2 ans de leur vie dans les appartements. Marc, vous voulez réagir ?
Il y a un petit clin d'œil quand même sur Foxconn.
Et ensuite on avance.
L'usine du million de salariés qui est au centre de la contestation qu'on voit en image, c'est que c'est une usine qui est taïwanaise. Donc là où c'est quand même amusant, c'est que les Chinois...
Il y a un côté politique aussi.
Exactement, il y a un côté politique et un clin d'œil.
Bien sûr. L'affaire Quatennens, aucun rapport, vous allez me dire, mais il faut en parler aussi. Il y a l'affaire politique, bien évidemment. Cette semaine, sa compagne, je le rappelle, est sortie du silence, dénonçant des violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années. Réponse de l'avocate d'Adrien Quatennens par communiqué, qui dément justement ces accusations. Je crois que mi-décembre, il recevra, il sera jugé pour... la gifle qu'il a portée à sa femme, puisqu'il l'avait avoué, et qu'il l'avait avoué, et que depuis 2 mois, il n'a toujours pas mis un pied à l'Assemblée nationale, mais que ces dernières semaines, avant le témoignage de l'ex-épouse d'Adrien Quatennens, la France insoumise, nombreux étaient ceux qui militaient pour qu'il soit de retour. On va écouter Clémentine Autain, et vous allez voir le décalage qu'il y a avec Yannick Jadot, qui ne pense pas la même chose. Clémentine Autain d'abord.
Nous avons pris des positions qui sont des positions fortes, puisque dès le début de l'affaire, qui a démarré par un communiqué de presse d'Adrien Quatennens lui-même, et je voudrais quand même signaler que c'est une première, un homme qui reconnaît un fait de violence conjugale, et à partir de ce moment-là, il n'a plus exercé son mandat de coordinateur de notre mouvement et il ne participe plus depuis à nos travaux parlementaires. Donc on est dans ce moment où je crois que nous avons posé des actes qui sont des actes forts, des actes clairs et nous sommes évidemment percutés par ce que vient de dire Céline Quatennens puisqu'elle a dit des mots d'une certaine, comment dirais-je, enfin moi qui m'ont troublée.
On sent le malaise chez Clémentine Autain. Yannick Jadot, il devrait quitter l'Assemblée nationale. Il n'est plus en capacité de représenter le projet pour lequel il a été élu, qui est notamment un projet de protection et d'émancipation. Ça, c'est Yannick Jadot dans les colonnes du JDD. Est-ce qu'Adrien Quatennens doit faire son retour à l'Assemblée nationale ? On commence avec vous, cher Jean.
Disons que si on applique la règle que la France insoumise a essayé d'appliquer à tous les autres, la réponse est non. Moi, personnellement, je pense que cette affaire devient de plus en plus sordide parce qu'on est là mêlé à une affaire intime, une histoire de couple qui, en fait, dans un pays normalement constitué, ne devrait pas être sur la place publique. Je ne comprends pas d'ailleurs comment la femme d'Adrien Quatennens a attendu pour parler. Pourquoi parle-t-elle que maintenant ? On ne parle pas de faits qui remontent à 20 ou 30 ans. Attends, on ne parle pas de faits qui remontent à 20 ou 30 ans. On parle de faits qui sont juste après MeToo. Juste après MeToo. Et on parle d'une femme qui est mariée avec quelqu'un qui est d'extrême gauche, qui donc normalement doit être un peu au fait de la sensibilité que revêtent ces questions au sein de son mouvement politique. Donc c'est un peu déloyal de venir mettre ça sur le tapis. Maintenant, moi je crois que si la France insoumise doit être crédible, et si elle veut être crédible, eh bien il faut qu'ils commencent par s'appliquer à eux-mêmes la règle qu'ils ont milité pour qu'elle s'applique aux autres.
François Galfond.
Écoutez, moi je dois avouer mon trouble à être sur place publique de ce contentieux entre un homme et une femme. Il y a ce que les gens disent politiquement.
Ils n'ont pas hésité à le faire pour Gabriel Attal, pour Gérald Darmanin.
Prononcer plus d'une phrase.
Damien Abad. J'entends.
Bon, et je le dis parce que chacun autour de cette table a pu connaître soit des situations personnelles, soit des situations de proches, ou tout simplement des gens qu'on connaissait ont commis des violences et inversement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut de la cohérence. Je vous suis. C'est-à-dire que j'entendais certains à gauche de la gauche... demander avant même qu'il y ait des affaires judiciaires sur un simple prononcé d'une accusation, demander des démissions. Donc il est clair que...
Jurisprudence Damien Abad, par exemple.
Jurisprudence Damien Abad. Ensuite, j'ai vu Mme Autain, Clémentine Autain, un peu plus prudente qu'à l'époque où finalement...
J'ai dit Gabriel Attal, pardon.
La commission des femmes de la France insoumise... avait accusé M. Bouaf, puis protégé M. Bouaf. Enfin, ce qu'il faudrait inventer, ça devrait s'appeler la justice, c'est qu'il y ait un débat contradictoire entre un homme et une femme, que tout cela ne se fasse pas sur Twitter ou sur les plateaux de télévision. Mmh. On en parle parce qu'ils en parlent, ne nous accusent pas collectivement. Et qu'une fois que tout cela est tranché, s'il y a une condamnation judiciaire, Quatennens, qui n'en est pas obligé, sauf s'il a une condamnation à l'inéligibilité, démissionne. Après, entre lui et lui, il peut se poser la question, mais ce mouvement-là, j'ai vu quand même beaucoup de tartufferies. Il pourrait se dire, eu égard aux positions que j'ai prises de condamnation moi-même, parce qu'on
l'a entendu. Dans l'hémicycle, bien sûr.
Si ma cohérence devait s'appliquer, alors je démissionnerais.
Et il pourrait remettre son poste en jeu en disant je démissionne, je me représente. Et c'est aux électeurs.
C'est là où vous avez raison, Eliott. C'est-à-dire que
peut-être le courage.
Il y a une séparation des pouvoirs. Et finalement, ceux qui doivent être les juges en dernier recours de l'élection. Dès lors qu'il a le droit d'être élu, ce sont les électeurs eux-mêmes. Il peut remettre son mandat devant les électeurs.
Judith. Marc Varneau, est-ce que finalement la France insoumise aujourd'hui est en train de symboliser le fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais?
Ça c'est déjà,
perturbant quand même.
Ça, c'est déjà le cas, mais c'est vrai que ça ouvre plusieurs questions. D'abord, quand Clémentine Autain prend position, est-ce que c'est la rivale politique de Quatennens qui parle? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est la collègue et députée? Moi, je ne sais plus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je rejoins ce qui a été dit, ces affaires aujourd'hui mises sur la place publique, on ne sait jamais où est la vérité, où est l'excès. On connaît quelques chiffres. On sait qu'il y a plus de 100 000 cas par an, qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas judiciarisés, qu'il y a 30 000 hommes qui vont en garde à vue, il n'y en a que 9 000 qui sont déférés. On sait tout ça. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est sensible, sur lequel la vérité est souvent extrêmement difficile à connaître. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur de mettre sur la place publique, de médiatiser ces affaires-là. Ça devient des combats politiques,
c'est eux qui
plus
ont
que des affaires
ça.
De mœurs.
Alors, ensuite, on a un autre thème sur la dette.
Pour répondre à votre question, la seule chose qu'Adrien Castaigne ne peut pas faire, c'est garder son mandat de député et ne pas travailler comme député. Ce serait vraiment intolérable. Et c'est ce à quoi on assiste. Alors, il a excipé d'un arrêt maladie pendant un certain temps. Je ne sais pas où ça en est. Mais en tout cas, on ne le voit plus exercer ses fonctions de député. Peut-être le fait-il dans son bureau à la
Voix de Adrien Castaigne.
Ah oui.
Mais il est en arrêt maladie.
Encore?
Je crois, pour l'instant, officiellement.
Donc c'est une situation qui ne peut pas durer, tout simplement. Donc,
évidemment,
la cohérence politique par rapport à la France insoumise, ce serait de lui dire qu'il ne correspond pas au combat que la France insoumise mène. Et donc, qu'il quitte le groupe.
Autre thématique ce soir, la dette. Et ça, c'est formidable. Vraiment, c'est fascinant. Et j'invite tous les téléspectateurs à lire la tribune de Marc Toiti, l'économiste Marc Toiti, dans Capital. C'est une information qui est placée complètement sous silence.
Complètement.
Sous les radars.
Complètement.
Il y a 15 jours. Personne. Non, mais vous dites il y a 15 jours. Personne n'en a parlé. Pardonnez-moi, Marc. Oui, vous l'avez vu. Mais vous en avez parlé sur les plateaux, Marc Varneau?
C'était pas le thème.
Oui, d'accord. Donc c'est pas le thème. C'est de la faute des médias.
C'est de la faute des médias.
Le Fonds monétaire international a mis un avertissement, non pas à la Grèce, non pas à l'Italie, à l'Espagne, mais à la France.
Bah oui.
Marc Touati, voilà ce qu'il dit. Il faut dire qu'après le quoi qu'il en coûte de 2020 à 2021, puis le bouclier tarifaire de 2022, la dette publique française a explosé de près de 550 milliards d'euros, et ce alors que la France est en train de replonger en récession et doit faire face à une inflation de plus en plus forte. Dans ce cadre, il est inévitable que la dette publique de la France dépassera très rapidement les 120% du PIB, et ce d'autant que la récession est en train de s'installer dans l'Hexagone. Donc j'ai textoté à Marc Touati, je voulais absolument qu'il réagisse, mais malheureusement il a beaucoup d'activités.
On est dans la gestion.
On est en train d'aller comme la Grèce, on fonce dedans. Non, mais
la gestion Macron est devenue un problème, une subvention.
Non mais qui est au pouvoir déjà, excusez-moi,
Marc Varnon?
Non, qui est au pouvoir?
C'est Marc Varnon. C'est
pas le Mozart de la finance.
Non, mais je crois que... Si, c'est le Mozart de.
Ben, je sais pas, le Mozart de la finance et ses troupes nous avaient expliqué qu'on arriverait à cette situation-là si Marine Le Pen ou Éric Zemmour avaient été élus. Or, là, on est à cette situation-là avec lui.
Ouais.
Et les médias qui ont soutenu cette histoire complètement rocambolesque ne sont pas au rendez-vous. Non, mais sur le fond. Si je puis me permettre.
Oui, mais spécialiste en économie, chef d'entreprise, on a du lourd ce soir sur le tableau pour parler de la Grèce.
Si je puis me permettre, il y a effectivement une dérive des finances publiques qui va être d'autant plus importante qu'on va avoir un taux d'intérêt de la dette qui dépasse largement le taux de croissance.
Oui,
c'est
alors,
à cette condition-là.
Je vous interdis, par contre, s'il vous plaît, vous vulgarisez au maximum.
Bah, le poids de la dette sera d'autant plus élevé qu'on doit la rembourser
c'est-à-dire
plus
que
cher.
Ce qu'on rembourse en termes d'intérêt de la dette sur la dette publique tous les mois va être beaucoup plus important que le taux de création de richesse de l'économie par mois. Et donc, effectivement, quand le taux d'intérêt de la dette dépasse le taux de croissance, on rentre dans ce qu'on appelle l'insoutenabilité
la seule question qu'on
de la dette publique.
Ce soir, Jean Messia, et je le dis à tout le monde, est-ce que la France peut vivre le même scénario que la Grèce? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Est-ce que la France, le déclin français, c'est aussi le déclin de son économie et que la France, avec des dettes publiques abyssales, est aux abois? Marc Varnaud, le chef d'entreprise, vous avez peur ou pas?
Non, c'est-à-dire que ce qui, effectivement, Jean Messier a touché du doigt le vrai souci. D'abord, qu'est-ce que dit le FMI hein? Je crois que le FMI dit, voilà, il faut que la France réduise tout de suite de 4% du PIB la dépense publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, dernier pays de l'OCDE, n'a fait aucune réforme de ses dépenses publiques. La France doit aujourd'hui faire des réformes de ses dépenses publiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France dépense beaucoup trop d'argent et la France est le seul pays à ne pas avoir réformé. On est le seul pays aujourd'hui qui a une dette qui augmente. On a deux fois la dette de l'Allemagne et on va être le dernier pays d'Europe à redescendre à 3% de déficit. On a deux réformes que le FMI nous dit qu'on doit faire. C'est les retraites et l'assurance chômage. Pourquoi? Parce que c'est les deux seules réformes qui permettent d'économiser beaucoup d'argent. Oui. Deuxième chose que nous dit le FMI, c'est qu'on a aujourd'hui 1 million de fonctionnaires en trop. 1 million de fonctionnaires en trop. Mais ça fait 20 ans qu'on a mis un million de fonctionnaires en trop.
Dans les bureaux.
En France, on a la chance d'avoir le double record, celui d'avoir à la fois 6 millions de fonctionnaires, mais de ne pas en avoir assez là où il en faut, et beaucoup trop là où il n'en faut pas.
Oui, François Calfon.
S'il n'y avait que ce chiffre, peut-être que la parole circule. S'il n'y avait que ce chiffre-là, qui est tout à fait inquiétant, et ça a été dit tout à l'heure, on nous l'a présenté, l'ancien banquier d'affaires, l'homme de la raison économique, l'homme de l'expertise, des trois derniers présidents de la République, personne n'avait explosé les compteurs comme ça. Et un deuxième chiffre qui, pour moi, est encore plus inquiétant.
La dette, elle augmente depuis 20 ans.
Pas avec cette raideur-là.
Bon, après, ils vont vous dire, il y avait une crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte.
Il y a un deuxième chiffre qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on dépense comme des fous, on baisse les impôts des entreprises. Et vous avez 120 milliards de déficit du commerce extérieur. C'est-à-dire que c'est du jamais vu.
Bien sûr.
C'est du jamais vu.
C'est-à-dire que,
comme disait en son temps Pierre Mauroy en 83, non, tous les clignotants ne sont pas au vert, tous les clignotants passent au rouge avec des réductions d'impôts. Alors, pardon de le dire, c'est là où je serais un peu peut-être hétérodoxe. Il faut quand même que, puisque vous parlez du quoi qu'il en coûte, il y a quand même des gagnants de la crise. Quand vous avez CMA...
Les super profiteurs.
Mais ça existe.
Bien sûr. Mais j'ai pas,
quand vous avez CMH et CGM, qui est une entreprise de conteneurs, n'est-ce pas, et de logistique qui passe d'une année de 1,6 milliard de profit à 16 milliards, tout ça parce qu'il y a une inflation
sur le transport maritime, bah oui, il faut jackpot. Socialiser ces super profits de crise. Non,
le point sur l'information, 23h30, les amis.
Non, mais ce sont des micros exemples. CGA, bah, CGM.
C'est 10 milliards,
CGA, c'est pas un micro-exemple. Non, mais c'est comme quand on parle des chefs d'entreprise et on cite Bernard Arnault. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport avec l'hypermajorité. CGA, CGM est un exemple, est un contre-exemple particulier.
D'accord.
C'est la seule société qui est comme ça. Mais la réalité, c'est que la baisse des impôts aux entreprises en France a été extrêmement faible par rapport aux besoins des entreprises. Les entreprises françaises sont toujours en situation de sous-rentabilité par rapport aux entreprises européennes et que la fiscalité des entreprises en France devrait être totalement revue. Ça, c'est la réalité.
Le point sur l'information, 23h30 avec Mathieu Devez. Il n'est pas en crise, Mathieu.
Un adolescent de 14 ans tué lors d'une rixe à Coignières dans les Yvelines. Le drame est survenu la nuit dernière après un combat de MMA organisé dans un gymnase. À l'issue de la soirée, deux bandes se sont affrontées en dehors de l'établissement. Et cet après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Il a été placé en garde à vue. Le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre, une hausse de 4,3% en un an. 72 809 personnes derrière les barreaux pour 60 680 28 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%. Le précédent record avait été enregistré en mars 2020, à la veille du premier confinement. La révolte contre la politique zéro Covid se propage en Chine. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues à Pékin, Shanghai, Wuhan et dans d'autres villes du pays. Elles protestent contre les confinements à outrance, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique zéro Covid pratiquée depuis près de 3 ans.
De finances publiques.
Voilà pour le point sur l'information. On va parler des écoles à présent, parce que les petites communes, face à l'explosion de la facture énergétique, eh bien, sont obligées parfois de fermer les écoles.
Bah oui.
Et c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre de côté l'éducation de nos enfants, pour faire des économies d'énergie. À Saint-Pierre-du-Perret, dans l'Essonne, elle a été multipliée par 5, cette facture énergétique. Et le résultat est terrible, puisque le maire doit résoudre et se résoudre à fermer l'un des 5 groupes scolaires de la ville. Il accueillait pas moins de 300 élèves qui vont devoir être dispatchés dans les autres établissements à la rentrée 2023. La décision a provoqué évidemment l'émoi des habitants du quartier. Vous allez voir ce reportage de Léo Marcheguet, Florian Paume, et le récit est signé Aminat Adem. Ce qui est fou, hein, c'est ce que je vous dis. Vous imaginez cette génération, ils auront vécu le confinement pendant plus de 6 mois. Et ils vont vivre désormais, du jour au lendemain, enfin en quelques mois, ils étaient dans une école, on leur dit, vous allez ailleurs, parce qu'on doit faire des économies d'argent. Regardez le sujet.
Pour les 300 élèves de cette école élémentaire, c'est la douche froide. Dès la rentrée prochaine, ils seront dispatchés dans les 4 autres établissements de la ville. Une mesure d'économie totalement injuste pour les parents.
Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime. Un équilibre que nos enfants ont déjà.
On ne devrait pas toucher à l'éducation.
On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'habitants de Saint-Pierre et puis en tant que citoyens français.
En cause, la flambée des prix de l'énergie. En 2 ans, la facture des bâtiments publics de la commune a été multipliée par 5. Pour le maire, il faut faire un choix. Les écoles de la ville sous-utilisées doivent être optimisées.
Moi, je dois trouver des solutions pour trouver l'argent pour payer mes factures. Alors ça, c'est une des solutions, parce qu'il y a tout un ensemble de choses. Hein. On va faire moins de tonte sur les espaces verts. Enfin, je ne peux pas, moi, chauffer des salles vides. On va tous avoir froid cet hiver chez nous à 19 degrés. Je ne peux pas, d'à côté, avoir des salles vides que je vais chauffer à 19 degrés ou plus.
De son côté, le bâtiment existant sera transformé pour accueillir les associations et les centres de loisirs de la commune.
Alors, quelle réaction, Marc Varno d'abord, et ensuite Judith.
Bon, écoutez, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'abord, la première, c'est que si effectivement il y a des classes qui sont sous-utilisées, moi je ne vois pas où est le problème qu'il les ferme. Au contraire, il a dû les fermer avant la crise énergétique. Si maintenant, c'est parce que sa facture est multipliée par 5 qu'il ferme ses classes, première question que j'ai envie de poser, c'est comment se fait-il que sa facture soit multipliée par 5? Je veux dire, quelque chose qui m'échappe. Mais au-delà de ça, c'est sûr que le vrai souci aujourd'hui, c'est encore une fois, pardonnez-moi, mais EDF, hein, cette fameuse entreprise qui a réussi à créer une crise énergétique dans un pays qui devait être indépendant en termes d'électricité nucléaire, et on se retrouve dans une situation qui est absolument ubuesque.
Mais c'est donc la faute d'EDF ou c'est la faute d'un certain François Hollande et ensuite d'Emmanuel Macron?
C'est la faute, c'est la faute de 10 ans de tergiversation et de remise en cause d'un outil merveilleux qui s'appelait EDF
et de la guerre
qui a été surendetté. qui était surendetté à quand telle enseigne quand il est nationalisé au mois de juillet dernier, qui est incapable de soutenir sa dette de 65 milliards et qui a devant elle aujourd'hui 150 milliards à investir alors qu'elle n'a pas un euro pour pouvoir nous fournir demain.
Mais enfin, on leur demande... La barque d'EDF est trop chargée. Une réglementation européenne leur demande de vendre à perte à leurs concurrents de l'énergie. Et ensuite, le prix de référence de l'énergie qu'on paye pour l'électricité est calculé sur le prix de l'énergie allemande. On nous demande de vulgariser. Si vous prenez, vous êtes à Longchamp, vous faites une course et vous mettez des lingots de plomb dans les sacoches d'un cheval, il ne peut pas avancer. C'est exactement ce qui se passe pour EDF.
Très belle métaphore.
Vous avez raison, mais
La deuxième chose, là où je vous suis, c'est qu'un maire n'a pas à interrompre le cycle des enfants au milieu d'une année scolaire. Il faut gouverner, c'est prévoir, et il n'a pas à le faire. Enfin, sur la question des collectivités locales, pardon, mais quand on baisse, ce qui peut être une bonne mesure, je ne critique pas sur le fond, les impôts de production des entreprises qui vont aux collectivités locales, et que, encore une fois, l'État ne compense pas les pertes fiscales, eh bien, aujourd'hui, toutes les collectivités locales se voient amputer de 20 à 25% de leur budget, ce qui est considérable.
J'invite tous les téléspectateurs à lire le magazine Challenge. Cette semaine, il y avait tout un dossier sur EDF.
Ben oui.
Et comment aujourd'hui...
On a tué cette entreprise.
Mais bien sûr, comment les politiques, les gouvernants ont saccagé EDF.
C'est une autre façon de dire que, en fait, le problème de la facture énergétique en France est en grande partie dû à des erreurs politiques ou à de la démagogie politique. C'est politique. Alors arrêtons.
C'est politique aussi.
Arrêtons de dire ça. Quand même, dans le sujet, votre maire explique que les classes étaient en sous-effectif, les écoles étaient en sous-effectif. Les collectivités locales, si on veut, pour raccorder avec le sujet précédent, faire en sorte que la dette française n'arrête pas. Arrête d'accélérer. Il faut que les collectivités locales aussi fassent un effort. Regardez Paris. Désolée. L'effort que fait Anne Hidalgo, c'est d'augmenter les impôts. C'est pas de réduire son service de presse.
Le sujet, pardonnez-moi, c'est un vrai sujet. Hein. C'est le millefeuille administratif. C'est surtout un truc là qu'on va expliquer qui s'appelle la péréquation. C'est-à-dire que l'État, en réalité, récolte l'argent pour les collectivités locales et ensuite leur redistribue. Et là où vous avez raison, elle leur en redistribue toujours de moins en moins.
C'est
comme ça que Macron a payé ses baisses d'impôts par les collectivités locales.
Parce qu'elles sont très rares à faire des efforts de rationalisation de leur gestion. Certaines en font, la plupart n'en font pas.
Vous faites de la rétention d'intervention.
Il a pris de la camomille, monsieur Messia.
Ils font de la rétention d'intervention. Jean Messia,
je suis en train de vous prouver que quand je ne prends pas la parole de manière coercitive, je ne parle pas.
Allez-y, cher Jean Messia.
Non, je crois que le problème, si vous voulez, il est double. Il y a un problème endogène et structurel qui date d'il y a longtemps, c'est-à-dire les choix énergétiques, notamment sur l'abandon du nucléaire par pure idéologie, la construction du marché européen de l'énergie qui est une catastrophe, d'accord ?
Et
s'ajoute sur ce problème structurel et endogène le problème conjoncturel de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. C'est exactement la même chose pour tout ce qui est européen. C'est comme pour la monnaie unique. Quand tout va bien, on ne voit pas les problèmes que ça peut occasionner. Mais en revanche, dès qu'il y a une tempête, dès que ça va moins bien parce qu'il y a une crise internationale, eh bien, il y a eu la crise des dettes souveraines après la crise financière. Là, il y a la crise de l'énergie à la faveur de la guerre en Ukraine.
En tous les cas, sur le plateau, pas une personne a du cœur. C'est-à-dire que vous parlez argent, pas une personne pense aux enfants.
Moi, j'ai pensé aux enfants.
Vous n'avez pas pensé aux enfants.
J'ai dit, place, on ne change pas des enfants en cours d'année scolaire.
Excusez-moi, vous avez vu ces hommes et femmes au cœur de pierre.
On a parlé du marché européen.
Non, mais Bruno Le Maire, non merci.
Je n'ai pensé qu'aux enfants, mais ça m'a coincé la voix.
Mais je sais. Bah, écoutez, heureusement que vous êtes là, cher
Bruno Le Maire, vous avez...
Autre thématique. Et là, on terminera avec ce sujet qui est extrêmement lourd. Et la situation dans les Yvelines est gravissime. Parce que ces phénomènes se répètent. Un nouveau drame dans les Yvelines, un adolescent de 14 ans, a été tué à coups de marteau, conséquence dramatique d'une rixe entre bandes. Voyez le sujet de Célia Judas et on en parle juste après.
C'est devant ce gymnase de Coignières qu'éclate cette nuit vers minuit une rixe entre deux bandes rivales. D'un côté, celle du quartier des marchands de Coignières, de l'autre, celle du quartier des Friches de Morpin, deux villes voisines situées à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Le drame s'est produit à la suite d'un gala d'arts martiaux mixtes qui se tenait dans le petit gymnase de la ville et auquel assistaient 300 personnes, dont la victime et son père, tous deux présents à cet événement familial. L'auteur présumé des coups aurait été enfermé dans le gymnase du Moulin avant par des témoins de la scène, avant que celui-ci ne parvienne à s'échapper par la fenêtre. À Coignières, ville à la réputation plutôt tranquille malgré quelques quartiers sensibles, difficile de réaliser.
C'est une situation qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous ici à Coignières choqués par cet événement.
D'après la police, les coups portés à la tête de la victime pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l'adolescent est décédé cette nuit vers 1h du matin. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire, mais pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Les raisons de la rixe restent elles aussi méconnues.
Ce qui est terrifiant, François Calfon, c'est que les semaines passent. Alors ça peut être dans les Yvelines, c'est aussi dans l'Essonne. Et vous avez des enfants de 14 ans aujourd'hui qui meurent dans des guerres de gangs quasiment.
Mais c'est choquant parce que ça vient à peu près dans n'importe quel quartier. Moi je connais bien, je le salue d'ailleurs, Monsieur Fischer, le maire de Coignières, qui est une ville plutôt calme, hein, c'est ce que je disais, aux confins de l'Île-de-France, il y a même une partie très forestière, très boisée. Et puis vous avez comme ça ces espèces de conflits absolument incompréhensibles en réalité. Entre des quartiers rivaux. Mmh. Hein, et ça s'est passé dans le 19e arrondissement l'autre jour. Hein,
bien sûr.
On a tous connu, moi étant plus jeune, j'ai connu des rivalités, mais ça pouvait frotter un peu. Et jamais personne n'aurait pensé à ôter la vie, pour ne pas dire autre chose,
entre-temps,
à quelqu'un de. Alors, c'est ça, c'est l'immigration. Ça,
entre temps, il y a eu le remplacement. Ben oui.
Ah, voilà, c'est ça.
Ben oui.
Bon, mais en tout cas,
vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que vous et moi, lorsque nous étions jeunes, il y avait effectivement des bagarres, des choses comme ça. Mais l'idée, c'était pas. Ben oui, mais l'idée, c'était pas de tuer. Ça n'arrivait pas toutes les semaines, d'accord. Là, on a changé de mode. D'ailleurs, je serais très étonné de connaître le profil des agresseurs.
Un jeune de 16 ans a été placé en garde à vue. J'ai pas le pénible.
Ben voilà, parce que si vous voulez, ces bandeaux qui se succèdent de manière très neutre en disant un jeune par-ci, un jeune par-là, des jeunes. Tout ça, c'est une terminologie, une sémantique très neutre qui ne dit rien sur la situation
non,
du pays. Or, on sait très bien que derrière tous ces bandeaux très neutres, il y a des réalités qui sont à 95% ou 99% les mêmes. Ce sont des bandes issus de certaines immigrations qui s'attaquent sur fond parfois de trafic de drogue assez souvent d'ailleurs ou non.
Vous savez, parfois c'est assez. J'ai bien connu dans une collectivité où j'étais.
Voilà, c'est ça.
C'est des motifs parfois pathétiques.
Si vous êtes
il y a un jeune qui passe dans le quartier d'un autre, un mauvais regard, les choses partent.
Oui, mais c'est pareil. Mais c'est toujours les mêmes profils. Si vous êtes en train de me dire qu'effectivement naguère il y a 50 ans on avait des gens et des jeunes qui tuent, c'est vrai. On n'a jamais prétendu qu'il n'y avait pas en dehors de l'immigration de phénomènes nationaux de délinquance et de criminalité.
Mais l'idée,
c'est que cette immigration aggrave la criminalité.
Si je peux juste dire un mot. Je crois qu'on est systématiquement, toutes les semaines, face à ce type d'actes ignobles, et on a toujours en face ces fameuses 120 000 peines de prison qui ne sont jamais effectuées, ces fameux 200 000 individus qui ont 30 cas au casier, cette fameuse impunité des mineurs. Je crois qu'on peut, dire tout ce qu'on veut, tant qu'on n'aura pas une solution forte et ferme pour traiter ça, et ben on continuera à avoir des gens qui, de la petite délinquance, vont vers le crime. Et malheureusement, les effets de bande de quartier, et on le voit à chaque fois, sont une école non pas de la vie, mais sont une école de la délinquance qui finissent par des meurtres.
Ça s'entend, docteur Simeka.
Écoutez, enfin, moi, juste un témoignage, je ne suis pas expert sur le sujet, mais j'ai passé mon enfance dans le 9-3, Bobigny, cité de l'Abreuvoir, pour ceux qui nous regardent, il n'y avait pas de mort. Hein, ça chauffait un petit peu. Et il y avait beaucoup d'immigration, déjà à l'époque. Moi-même, mes parents étaient des immigrés italiens. Mais il y avait beaucoup d'immigration d'Afrique du Nord, beaucoup d'immigration maghrébine, et il n'y avait pas de mort. Donc je pense que les explications, elles doivent quand même être un petit peu ailleurs. Mmh. Et il y a une évolution, effectivement, de la société.
Montée de la violence,
ça se sent au quotidien dans notre pratique clinique.
Mais votre temps, l'immigration s'assimilait, docteur.
It's over. Cher Jean Messia, et évidemment, c'est terrible dans ces cas-là parce que vous avez donc un ado de 14 ans qui est tué et vous avez sa famille. C'est un drame familial, un drame pour toute une région
aussi.
Et pour la société, bien sûr. C'est toujours difficile en plus de terminer sur une actualité aussi lourde, une émission et un week-end qui s'est aussi bien passé. Et pour l'émission, je tenais à tous vous remercier parce que c'était un plaisir d'être avec vous.
Merci.
Vous avez vu, on a réussi à balayer quasiment toute l'actualité. Je crois qu'on a fait 10 thèmes en l'espace d'une heure et demie.
C'est impressionnant, c'est une sorte de performance sportive.
Oui. C'est vous les sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sportifs de haut niveau, je voudrais qu'on finisse sur une image un peu plus sympa.
Bah oui.
Cette émission, vous allez voir la joie des joueurs de l'équipe de France dans le vestiaire après la victoire contre le Danemark. Je vous rappelle que nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale.
Bravo.
Et ça parle boycott, ça paraît boycott, mais on est chauvin, nous. On est bleu, blanc, rouge, on est content de voir l'équipe de France s'emporter.
Ils ont tout cassé au Qatar ou pas ?
Attendez, écoutez, cher Jean Messia, si vous pouviez éviter de nous embêter. France Godfab était à la préparation. C'est l'architecte. Vous savez que France Godfab, c'est celle qui a préparé toute l'émission l'année dernière. Et aujourd'hui, elle revient pour ce dimanche. Et c'est un plaisir d'avoir travaillé avec elle. Axel Thomas était également en régie. Jean-Luc Lombard, Philippe Saillant, Rodrigue Le Prado. Et on salue d'ailleurs France, sa petite, elle marche. Elle était toute heureuse en régie. Donc bravo à
la geste d'espoir.
Bravo France, bravo à la France. Puisqu'on a parlé de France, on va regarder ces images dans le vestiaire. On se retrouve le week-end prochain. Voilà, on pourrait faire la même chose sur le plateau. Jean Messia, regardez comme vous êtes heureux. Là, c'est joli.
C'est beau, c'est la France.
Bravo. Allez les Bleus.
Magnifique.
Allez les Bleus. On casse pas le plateau. On fait pas la même chose sur le plateau. À la semaine.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.